Vous êtes sur RTL.
Ouais.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On fait le match 18h30, 20h ce soir. Le football à l'arrêt et donc pas de multiplex, vous le savez, mais du plaisir à vous rendre visite chez vous, à votre domicile, pour vous faire partager une heure et demie de discussion, de débat, d'échange. On vous prévient tout de suite car je sens poindre certaines réflexions. Oui, il y a plus important que le football dans la vie, mais nous le ferons ce soir sans aucune prétention, en toute connaissance de cause, de la grave actualité qui nous secoue tous, avec une énorme pensée, bien sûr, pour les victimes de cette saleté ainsi que leurs proches. D'énormes bisous et encouragements également à l'ensemble du corps médical, du professeur à l'agent d'entretien, puisse on fait le match vous informer, vous distraire, vous changer les idées et même vous énerver, pourquoi pas. Dépensez-vous, réagissez sur un seul compte, le compte Twitter @RTLFoot, mais s'il vous plaît, de chez vous, restez chez vous. Avec moi et à distance réglementaire, monsieur l'arbitre, David Aiello. Bonsoir David.
Bonsoir mon cher Christian.
Pour Yahoo Sport, Stéphane Poels, journaliste polyvalent. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christian.
Florian Gazan, on fait le match et les grosses têtes. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian.
Et Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Nous saluons évidemment Denis Balbir qu'on embrasse. Rassurez-vous, tout va bien pour Denis. Zéro inquiétude. Le règlement, monsieur l'arbitre, c'est le confinement. On fait le match dans 30 secondes. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Marque européenne.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Alors messieurs, le football, comme tous les autres secteurs d'activité, évidemment, est à la peine. Jusqu'à 19h, nous nous poserons la question. Le foot français, le football français, touché par le chômage partiel, a-t-il les reins assez solide pour s'en remettre. 19h-19h30, nous parlerons des joueurs qui ont quitté la France, des calendriers nationaux, les calendriers Ligue des Champions sont sans dessus-dessous. Faut-il faire des impasses de compétition comme le suggérait, on y reviendra, hier soir sur l'antenne de RTL, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. On parlera également de l'Euro 2020 en 2021. Cela fait-il les affaires de l'équipe de France? On essaiera de parler un peu football et terrain, bien évidemment. Et puis jusqu'à 20h, le reste de l'actualité qui n'est pas au chômage partiel, crise à Angers. Est-ce qu'elle sera fatale au SCO, le Sporting Club donc Angers? Claude Puel, manager, entraîneur de Saint-Etienne, qui veut se débarrasser d'un de ses deux patrons, Roland Romeyer. Alors à qui appartient le club? Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Et puis on parlera également de Rennes avec un nouveau président, Nicolas Hulvec, avec quelles ambitions pour le Stade Rennais? Mais tout de même, compte tenu de l'actualité, de la grave actualité, messieurs, j'ai envie de vous demander à vous tous, votre confinement à vous. Vous le respectez évidemment à la lettre, sauf lorsqu'il s'agit de sortir exceptionnellement pour informer ou divertir les auditeurs de RTL. Philippe Sanfourche.
Bah, déjà, je pense que c'est important d'avertir tous nos auditeurs qu'on essaye au maximum de respecter les consignes, les gestes barrières. Je crois qu'on est tous arrivés de manière évidemment disparate. Soit on a un scooter, une voiture qu'on met au parking, on arrive seul. Quand on arrive, on fait tous les gestes, on se lave les mains. On est chacun là à plus d'un mètre, 1m50 même, dans ce studio. Techniquement, on a nos petites bonnettes, vous savez, sur les micros, les petites mousses, pour pouvoir atténuer les sons. Et ben, chacun arrive avec sa petite bonnette. Donc, on prend bien le soin d'enlever celle, la précédente qui a servi pour un autre journaliste ou animateur. Et voilà, ce sont des petits gestes comme
on
ça.
On s'est lavé les mains en arrivant.
Voilà, c'est juste pour que nos auditeurs comprennent que tout le monde est logé à la même enseigne et que si on sort exceptionnellement de nos domiciles, c'est en prenant le plus de précautions possible.
Ton confinement à toi, Florian Gazan?
Ça se passe tout seul chez moi, donc c'est extrêmement long. Donc, comme j'ai acheté beaucoup de rouleaux de papier toilette, comme tout le monde au début, je fais des jongles, voilà, comme ça se fait sur Internet.
C'est un nouveau jeu. Vous vous êtes essayé à ça?
Ouais, alors j'ai réussi 4 jongles et un vase.
Moins bien que Messi. Ouais, moins bien que Lionel Messi.
Même
avec un rouleau de PQ, il est le plus fort. C'est le
meilleur. Et on rappelle que pour les questions d'hygiène, on fait les jongles avant et après on jette le papier toilette.
Évidemment,
il faudra se poser la question de savoir pourquoi on dévalise les rayons de papier toilette quand même. Ça, c'est peut-être pas au sommaire dont on fait le match.
Et les pattes.
Ça mériterait d'être au sommaire d'une autre émission.
Je pense que c'est même pas pour jongler en plus.
David Aiello, tiens.
Bah écoutez,
ton confinement à toi.
Moi, ce qui m'est venu quand même assez rapidement, c'est le temps retrouvé. J'ai envie d'être un petit peu positif. Et il y a une autre notion du temps qui s'est installée. On redécouvre des activités qu'on avait perdu de vue ou qu'on pensait plus avoir le temps de faire. Du bricolage, de la peinture, je sais pas, des choses qui paraissaient complètement inaccessibles. On se dit, bah là, pour le coup, il y a un petit peu plus de temps. Je trouve qu'il y a la notion du temps qui a complètement changé. Donc voilà, pour l'instant, ça reste positif. Enfin, ça reste sur quelque chose. J'essaye de prolonger un petit peu cet instant parce que je me dis que dans la durée, ça va être difficile peut-être à tenir. Mais on essaye voilà, de redécouvrir un petit peu des activités puis de profiter.
Et Stéphane Poels qui est resté en France?
Ouais, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure pour pas me répéter.
Au moment de parler des joueurs.
Exactement.
Qui ont
et sans vouloir être faillot, mais on a plein de médias. Je pense que la plupart ici, on est en télé, en radio. La radio, c'est magnifique parce que la radio, ça permet communiquer, d'être dans l'instant T, comme c'est Philippe tout à l'heure. Et je pense que moi, j'écoute la radio toute la journée, mais vraiment, vraiment. Et forcément, j'écoute RTL. Et je trouve ça remarquable de pouvoir donner la parole aux gens. Les gens parlent, ils ont besoin de parler quand on est confiné. Eh bien, je n'avais pas envie d'être... de regarder la télé toute la journée, vous voyez ce que je veux dire, et d'être hébété par un écran. Et la radio, c'est bien, ça me permet de dialoguer, de comprendre. On a Pascal Pro, enfin, j'écoute ce genre d'émission tout en faisant autre chose, en écrivant. J'écoute les grosses têtes avec Flo et compagnie. Non, je pense que c'est important.
Et je confirme que ce n'est pas pour failloter parce que Stéphane Poels m'en parlait également hors antenne. Donc
oui,
là,
non, mais je pense vraiment qu'il faut éviter, pour les raisons que disait David, faut d'abord reprendre goût à faire des choses qu'on ne faisait plus. J'ai fait de la soupe, moi, cette semaine, voilà. J'ai pas fait depuis 5 ans.
Moi, j'ai trié 3 ans.
Ça fait rire, mais au moins, on reprend des goûts, ça fait sourire, c'est très belge. J'ai fait des pains de coke aussi, des crêpes.
La vraie soupe avec de vrais légumes.
Exactement. Et donc on reprend goût, on fait des choses qu'on ne faisait plus, pas parce qu'on ne voulait plus les faire, parce qu'on n'avait plus le temps. Il faut être honnête, Florian, on a une vie de dingue, comme tout le monde d'ailleurs, même comme nos auditeurs, et on est à fond. Ici, on a le temps de faire des choses vraies.
Voilà. Attention aux accidents domestiques quand même, parce que si tout le monde se met à la cuisine et au bricolage, on n'y a jamais fait.
Tu es en train de dire que la soupe
va embouteiller les urgences assez rapidement.
C'est un accident domestique,
un accident culinaire.
Je voudrais saluer également la réalisation avec toute son équipe technique. Lucas, évidemment, vous connaissez son nom, en compagnie de Damien Béchiot, très régulièrement, le vendredi, le samedi, le dimanche, dans nos offres sportives en direct hier, offres sportives demain soir, et offres sportives dans On fait le match. Messieurs, on revient au sujet qui nous préoccupe. Alors, finalement, compte tenu de cette actualité-là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de joueurs actuellement qui soient concernés et heureusement par ce virus. J'ai fait un rapide tour d'horizon. Rugani a été le premier, Juventus de Turin. Blaise Matuidi, Juventus de Turin également. Il y a eu 5 joueurs de la Sampdoria Gênes, nos amis italiens, qui sont vraiment malheureusement touchés, sévèrement touchés, dramatiquement touchés. Vous avez entendu encore le bilan donné par Vincent Parisot dans le journal de 18h. Un Serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Et alors, Cristiano Ronaldo, non, mais lui, il est en isolement à Madère.
Voilà. Après, c'est aussi les politiques nationales qui s'appliquent au football. Certains ont décidé de faire plus de tests que d'autres. On s'aperçoit que malheureusement, quand on cherche, on trouve. Et que dans les clubs italiens, il y a eu beaucoup de tests. Par exemple, Blaise Matuidi a été testé alors qu'il n'avait absolument aucun symptôme. Il a été très étonné d'apprendre qu'il était positif. Hier, on avait dans cette émission des footballeurs invités. On avait Paul Lannes, on avait Florent Balmont qui nous disait, nous, en fait, on est passé du mode on s'entraîne tous les jours, on est confiné à la maison comme tout le monde, et entre-temps, il n'y a pas eu de tests médicaux spécifiques pour savoir s'il y avait la présence de ce virus ou non.
Et puis, on ne va pas se transformer en médecin. Ça veut dire que, quelque part, ces joueurs de foot, ils sont quand même constitués d'une santé, entre guillemets, normalement, un petit peu supérieure à monsieur, madame, tout le monde.
Ça touche tout le monde,
d'accord. Mais eux ont l'impression aussi d'être dans une forme physique comme quoi il ne peut rien leur arriver. C'est faux, puisque vous venez de le dire, puisque certains le chopent ou ne le chopent pas, mais ils sont considérés comme susceptibles de l'avoir.
Et d'autres l'ont peut-être sans qu'on le sache.
Moi, je pense simplement que tout dépend aussi des instances. Ça veut dire que, je prends l'exemple de mon petit pays, la Belgique, tant que les dirigeants ne sont pas clairs dans ce que va devenir le football national, on en reparlera tout à l'heure avec M. Aulas et compagnie, et les deux autres présidents, eh bien, les joueurs ne savent pas, ils ne se positionnent pas. Une fois que c'est clair, en disant le championnat s'arrête, on ne jouera plus, ou on jouera telle date, eh bien les joueurs se relâchent et se disent maintenant on va penser d'abord à la santé. Mais si on leur met une épée d'Amoclès en disant attention, il y aura peut-être entraînement lundi, les mecs sont un petit peu perturbés.
On parlera du calendrier de la préparation des joueurs dans la deuxième partie de cette émission. David Aiello.
C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de prudence qui doit s'appliquer parce que pour l'instant, l'étendue de l'épidémie, ses formes, son évolution, tout ça fait que je pense que c'est difficile effectivement de se projeter dans le quotidien des footballeurs, dans ce qui leur arrive, dans la manière dont ils peuvent avoir de vivre ça. Est-ce qu'ils sont vraiment touchés ou pas? C'est vrai qu'on disait il y a certainement un taux de cas qui non confirmés ou non reconnus qui est très
non
élevé,
détecté, ouais,
non détecté,
ouais,
invisible, forcément très, très, très élevé, qui touche certainement également les footballeurs. Donc voilà, quand on regarde le nombre de cas que vous avez cités, ça paraît très peu compte tenu du nombre de footballeurs qui existent.
Malheureusement, liste non exhaustive.
Oui, exactement.
Je pense d'ailleurs, j'ai une pensée pour la Ligue 2 également, Souk, le sud-coréen de 3.
Hein,
c'est
oui, exactement,
qui a été touché également, aussi, mais nouvelle ration. rassurante également pour lui. On pense également
et les joueurs qui ont joué contre lui ont des craintes. Vous avez vu ça, les mecs qui l'ont tenu en se disant tiens, peut-être que j'ai chopé.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils bénéficient quand même d'un suivi médical très poussé. Forcément, de par leur activité. Donc, on peut imaginer qu'ils ont été préservés par rapport à ça.
Florian Gazan.
Non, mais ce qui est très compliqué, c'est que finalement, personne ne sait rien. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Personne ne sait comment même ce virus va évoluer. Parce qu'on voit au fil des actualités que, voilà, il y a des signes qui sont, qui prouvent que ce virus fait du mal, qui apparaissent nouveau. Maintenant, quand on sent plus le goût, quand on sent plus, voilà, on peut avoir le coronavirus. Donc, en fait, tout ça est en train d'évoluer, mais personne ne sait vraiment où on va. Donc, on est tous en position d'attente. On vit même pas au jour le jour, on vit heure par heure. Donc, j'imagine que c'est compliqué de se projeter pour un joueur de foot qui finalement vit aussi à très court terme. Les joueurs de foot, ils vivent à super court terme. Ils vivent à l'entraînement du jour, au match de dans 3 jours. Et là, ils se retrouvent face à une sorte de grand flou artistique. Donc, c'est compliqué avec en plus aussi un rythme de vie qui change complètement pour eux. Retrouver les familles. Enfin, c'est très compliqué, je pense, à vivre psychologiquement.
Il y a peut-être Stéphane. Quelque chose aussi, je suis un peu sévère, mais la moitié des joueurs de foot, j'ai eu la chance de travailler dans des clubs où ils sont pas très concernés hors vie football.
On va en parler.
Donc, ils jouent au foot et puis le reste après, ils sont PlayStation ou vont avec les copains au restaurant et ils s'ennuient un peu.
Peut-être ici, ils sont rappelés à la réalité.
Maintenant, c'est la réalité de la vie. Ils sont chez eux et ils sont donc obligés de devoir lire, apprendre,
s'occuper des enfants.
Nous sommes bien d'accord. Et donc c'est nouveau. Les à la moitié sont perdus. Je vois des messages de certains footeux. Ils se font royalement. Si vous voyez ce que je veux dire.
On va en parler, évidemment. Première question, messieurs. Le football français touché par le chômage partiel dans Fait le match, a-t-il les reins assez solides pour s'en remettre? David Aiello, Stéphane Powell, Florian Gazan, Philippe Sansfourche. Alors, je rappelle que le chômage partiel, c'est 84% du salaire net versé aux joueurs, toujours par le club, et 4,5 fois le SMIC versé par l'État. Alors, on prend un exemple, un joueur qui touche un salaire, un beau salaire déjà, mais un salaire pas très conséquent pour le milieu du business, 50 000 euros.
Je parle chez les footballeurs. C'est un peu moins de la Ligue 1, je crois que c'est 60 000.
On va tabler 50 000 euros. Le club verse 42 000 euros net et 5 400 versés par l'État. D'abord, est-ce que ça vous choque?
Non, parce qu'on est typiquement dans un schéma qui va concerner, par exemple, dans une entreprise, des cadres supérieurs, où on va être sur ce plafond de 5 400 euros. L'État ne versera jamais plus de 5 400 euros. Ça me rappelle, même si ça n'a rien à voir, toute proportion gardée, mais quand on avait fait des papiers sur la blessure à long terme de Neymar, on savait que
la sécu.
Voilà, il y avait des gens qui se disaient, mais attendez, il gagne 2 millions par mois, il va falloir que la sécu paye. Évidemment que non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des plafonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les clubs, dont on sait que la masse salariale est un poste important, eh bien cette mesure finalement est une toute petite bouée de sauvetage. Ça va permettre de prendre en charge le personnel administratif, la comptabilité, voilà tout ça. Mais pour ce qui est de la masse salariale des joueurs, Marseille par exemple, qui est déjà dans une situation financière dramatique, ça va pas les aider du tout. Quand il faut donner 500 000 euros par mois à Dimitri Payet, eh ben l'État va filer 5 400 et puis il va falloir continuer de donner 400 000.
Plusieurs clubs sont dans ce cas. Marseille, Lyon, Montpellier, Nîmes, il y en a d'autres. Il y en a qui n'ont pas communiqué. Stéphane Powels.
Un autre angle, puisque je présume que Flo ira sur le même angle, un angle complètement. Alors, c'est pas du populisme, hein, pas du tout, mais je pense que le joueur de foot est quand même quelqu'un qui gagne bien sa vie, tant mieux pour eux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les pieds carrés et pas être capable de jouer au foot de qualité, donc je leur laisse ça. Mais il y a un moment, il faut aussi que eux puissent accepter que ce petit manque à gagner bien fait partie d'une logique collective, une logique nationale. C'est-à-dire qu'il y a, on va pas. C'est pour ça que je vous dis que je fais pas de populisme. Il y a des hommes en ce moment qui travaillent, notamment je pense aux éboueurs, à ces gens-là, qui gagnent leur vie en travaillant dur, des petits salaires, et d'autres ne peuvent plus travailler. Donc je pense que le joueur de foot, il faut pas qu'il gueule. Je comprends le phénomène financier pour les clubs qui sont en difficulté. Ça va être compliqué parce qu'il y a un équilibre financier qu'il faut garder. Il y a au-dessus de la DNCG, tout ça, il faut rendre des comptes. Mais je pense que le joueur même, lui, s'il perd un petit peu de pognon dans son portefeuille, il ne faut pas qu'il gueule.
Florian Gazan.
Non, mais la problématique, c'est qu'un club de foot, ce n'est pas que des joueurs. Il y a beaucoup de gens tout autour, les staffs, la comptabilité, l'administration, etc. Et c'est ces gens-là qui vont être impactés les premiers. Parce que si les budgets, s'il n'y a plus assez d'argent, qui vous allez licencier en premier? Vous
n'avez
pas licencié un joueur. Vous allez licencier tout autour du club. Et donc, c'est toute cette économie-là qui est fondamentalement en danger. Alors, a fortiori, dans les petits clubs. Moi, je connais bien le cas de Nîmes, vraiment le budget quand même pas très épais. C'est clair que c'est des clubs qui vont être grandement en péril.
Bien sûr, les petits clubs comme Nîmes, enfin les plus petits clubs, on est sur une centaine de salariés. Ouais. Et encore, Nîmes, c'était même pas autant que ça. Et on va jusqu'à évidemment 800 quand, au Paris Saint-Germain.
Philippe, quand tu vois des clubs comme le LOSC, que je connais un peu, bon, il y a une grosse structure commerciale et marketing. Et forcément, là maintenant, avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? On licencie les gens parce que on est dans une période compliquée, ou bien on les garde pour aller chercher du pognon ? Parce que c'est ça aussi, il faut préparer la saison prochaine. Tu peux pas virer tout le monde. Il va falloir
question,
faire des choix.
David Ayello, ouais. Le football français peut-il s'en remettre, ou certains clubs français ?
Non, mais en tout cas, la question est très légitime. Elle peut paraître comme ça, on joue peut-être à se faire peur, mais pas du tout. Il faut rappeler quand même que le football français, la Ligue 1 notamment, est en déficit récurrent depuis des années, que les clubs ont mal géré à chaque fois les masses d'argent qui ont été apportées par les droits télé, et que globalement le bilan est négatif pour la plupart des clubs de Ligue 1. Donc dans un cadre normal déjà, les clubs professionnels français avaient du mal. Donc on imagine avec une crise comme ça, avec l'impact que ça peut avoir sur la durée, parce qu'on a bien compris que ça allait durer au moins plusieurs mois cette histoire, effectivement il y a une vraie inquiétude à avoir.
On fait le match jusqu'à 20h avec David Ayello, Stéphane Powels, Florian Gazan et Philippe Sanfour. Jusqu'à 19h, on continuera de parler et d'échanger évidemment sur cette économie du football français en difficulté comme tous les autres secteurs d'activité. Vous pouvez également, si vous nous écoutez, nous rejoindre sur le compte @RTLFoot. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, échangez, donnez votre point de vue. Message qu'on pourra rassembler jusqu'à 20h et diffuser sur l'antenne de RTL. 18h47, on revient dans 30 secondes.
RTL, on refait le match. Du Strac. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Le football français touché par le chômage partiel a-t-il les reins assez solides pour s'en remettre ? Alors est-ce qu'il n'y a pas également, d'une certaine façon, si j'ai une vision un tout petit peu cynique, mais histoire de vous provoquer un peu, une part de stratégie de la part de certains clubs pour se séparer en fin de saison ou en fin de contrat de certains joueurs ?
Bah oui et non. Oui, pour
Stéphane Powels.
Pour celui qui a du pognon, le club qui a vraiment beaucoup d'argent, et vous connaissez les clubs, hein, puisqu'on est tous avec notre ami Jean-Michel Aulas, ce genre de président peut éventuellement, vous êtes cynique, mais utiliser, pourquoi pas, je ne veux pas dire qu'il allait le faire, mais l'utiliser, ce stratagème. Moi, je pense plutôt au petit club. Le petit club qui n'a pas beaucoup d'argent.
Il y a des contrats.
Ouais, non, mais il y a des contrats, mais Florian, tu sais quand même comme moi qu'avec des contrats, à un moment, tu peux les contourner, tu peux mettre des pressions, ça se passe comme ça.
Alors, je donne un exemple.
Tu travailles dans des clubs.
Pardonne-moi, Stéphane, le club suisse de Sion 9. A effectivement établi un plan de chômage partiel.
Là, qui n'ont pas voulu, 9
refusé dehors, par joueur, 9 licenciés.
9 licenciés. Et donc, c'est ce que je viens de dire, c'est que dans les petits clubs, et pas forcément dans l'envie de licencier. Le petit club qui a un bon joueur, tu parlais de Nîmes, quoi, ils ont 2-3 bons joueurs, ils veulent les garder et ils ont un salaire assez important. Cette conjoncture maintenant fait que les mecs ne pourront pas augmenter le salaire, faire une contre-proposition pour les garder. Et là, ça risque d'être compliqué. C'est que les mecs, un, peuvent se barrer. Alors tu me dis, ils ont des contrats. Les transferts, je ne suis pas sûr que sur un joueur moyen de Nîmes, je prends l'exemple de Nîmes, mais je peux prendre l'exemple de Lens ou d'autres clubs, tu vas faire des plus-values exceptionnelles, ou alors tu as Cristiano Ronaldo dans ton vestiaire. Mais donc, c'est eux qui vont être en difficulté pour garder. Parce que comment on fait quand on est dans un club pour garder un bon joueur ? Ben, on doit revoir son salaire et revoir la périodicité.
Mais c'est une piste qui est envisagée, la baisse des salaires. Pour baisser le salaire d'un salarié, c'est très simple. Il faut tout simplement qu'il y ait l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la volonté de l'employeur et que l'employé accepte de le faire.
Et ça peut te mettre le feu dans un vestiaire aussi.
Complètement.
Oui. Et alors, le seul truc, c'est de ne pas descendre en dessous des minimums syndicaux qui sont...
Ils en sont loin.
Mais ils en sont très loin pour certains. Donc, est-ce que des joueurs pourront accepter éventuellement ? De toute façon, là, on est dans de la politique fiction. Il y a des options, il n'y en a pas 50, il y en a 2. C'est soit le championnat peut se terminer, auquel cas, que ce soit à huis clos ou avec du public, ça aura une incidence sur les rentrées de billetterie, c'est pas anodin. Mais le plus important, on le sait très bien, c'est à peu près 60% des revenus des clubs aujourd'hui. Pour certains, on parle encore des petits clubs comme Nîmes, c'est 80-85% des revenus, ce sont les seuls droits télé. Donc soit le championnat peut continuer, que ce soit fin juin, fin juillet, fin août, on s'en fout, mais le championnat peut arriver à terme et auquel cas les droits télé rentrent. Les partenaires aussi, les sponsors qui versaient vont verser jusqu'au bout. Soit le championnat ne peut pas se terminer et là, c'est la déflagration. Là, c'est l'obligation de mettre la clé sous la porte.
Une seule journée de supprimer, c'est 5 millions de pertes avec la billetterie, avec les loges, avec les places VIP et 5 millions d'euros.
Au total, la Ligue 1, si elle ne se termine pas, c'est 400 millions d'euros de pertes.
Mais à chaque journée par club.
Au total, 400 millions d'euros. 400 millions, le total. Bah, les deux journées qui se jouent.
Tu vends Mbappé, tu sauves la Ligue, en fait, c'est ça?
C'est un plan.
Mbappé qui a donné de ses nouvelles, d'ailleurs, cet après-midi sur les réseaux sociaux.
Avec son petit frère. Non, mais ceci dit, on parle d'Mbappé, mais c'est vrai que ça va aussi changer complètement la temporalité, le calendrier du mercato, toute cette histoire, parce que finalement, il y a plein de joueurs aussi qui attendaient un petit peu de savoir comment ça allait se passer au niveau des négociations. Ça va changer beaucoup de choses. En fait, je crois qu'on se mesure pas à quel point ça va avoir des déflagrations plus grandes qu'on ne l'imagine.
Et sportives aussi, Florent.
David Aiello.
Et sportives, forcément, puisque les transferts ne vont pas se faire, donc il y aura des équipes qui vont diminuer de qualité ou d'autres, quelque part, à cause du coronavirus.
Il y a Mercato.
Oui, si à Mercato, des équipes qui vont augmenter de talent grâce au Mercato.
Comment ça?
La FIFA a mis en place un groupe de travail depuis maintenant 2-3 jours avec l'ensemble des représentations des clubs, des joueurs, des instances de toutes les fédérations. Et on réfléchit à la meilleure solution en fonction de ce qui va se passer sur l'aménagement du calendrier.
Et on pourrait supprimer le mercato.
Il pourrait, dans un premier temps, être reporté.
Oh là là.
Et si les compétitions ne vont pas à terme, on pourrait. Quand on parle de geler, par exemple, les positions, ce serait aussi geler les positions.
Ouais, mais ça va tuer financièrement les clubs.
Mais pour des joueurs qui sont en fin de contrat, qu'est-ce
que ça fait ? Parce que le club comme Nîmes. Tu parles de Nîmes, le club comme Nîmes qui peut espérer en vendre un ou deux et se sauver grâce à ça, s'il n'y a pas de mercato, là ils risquent de crever de faim. Là ça risque d'être très compliqué.
C'est là où on voit justement, je vais revenir sur la question un petit peu perfide quand même de Christian, qui était de savoir si des dirigeants n'allaient pas en profiter. J'espère quand même que la majorité des présidents et des dirigeants de clubs du football français vont avoir une certaine hauteur de vue, déjà dans un premier temps.
Ça
déjà...
s'est senti ces derniers jours.
Ouais. Ouais, il y a vraiment eu de la hauteur. Hein.
Ouais. Non, mais là, vous pointez certains comportements qui ont été quand même minoritaires, on peut quand même le dire. Donc, j'espère
Il y a eu un rectificatif audible de la part de Jean-Michel Aulas hier sur l'antenne de RTL, on en reparlera.
Rectificatif ou machine arrière, on en reparlera effectivement tout à l'heure. Donc, ce que j'espère en tout cas, c'est que dans un premier temps, là, on va quand même avoir globalement, et c'est plutôt ce qu'on voit, globalement, un comportement, j'ai envie de dire, chevaleresque, humain, de base, qui consiste à dire, bon, pour l'instant, on touche à rien, on attend de voir, avant de commencer à réfléchir, à avoir des vues aussi, j'ai envie de dire, mercantiles, que de se dire, bon, bah, tiens, si je me débarrasse de ces trois joueurs-là dont j'avais pas besoin, ça va faire mes affaires en cette période et j'en profite. Je trouve ça hallucinant, quoi.
Mais, Stéphane Pauwels.
Tout à l'heure, Christian, vous avez parlé de l'ambiance dans un vestiaire. J'ai eu la chance de travailler dans des vestiaires. Il y a un truc qu'on ne parle pas, c'est les salaires. Donc on ne parle pas du salaire de l'autre.
Ils n'en parlent pas entre eux, mais ils savent tout.
Ils
savent tout, mais ils en parlent
pas. Mais ici, avec ce système-là de perturbation, de transfert, de revalorisation de salaire, ça va être dans certains vestiaires. S'il n'y a pas de leader, de dirigeant, de grand directeur sportif qui prennent les choses en main, ça peut faire exploser des vestiaires et partir en sucette. Hein. Notamment, et pas forcément chez les petits, hein. chez les gros qui sont quand même dans des rapports de force financiers. Avec comme moi quand même que dans des gros clubs comme à Paris et Lyon, les mecs, moi je l'ai vécu en live à l'époque dans certains clubs, où les mecs sont capables de se faire la gueule parce qu'ils ont appris que leurs copains de vestiaire gagnent 10 000
D'accord,
euros plus que eux par mois.
Sauf qu'au Paris Saint-Germain, on n'évoquera sans doute pas, ce ne sera sans doute pas Philippe Sanfourche d'actualité.
Non.
Vous qui suivez le PSG, le chômage partiel.
Non, il n'y a pas de chômage partiel au Paris Saint-Germain, il n'y en aura pas. Il faut faire le dos rond simplement et attendre que la crise passe. Mais d'ailleurs, on entend assez peu les dirigeants et globalement quiconque au Paris Saint-Germain, si ce n'est pour s'inquiéter du fait que les joueurs soient tous là si une éventuelle reprise venait à se profiler avec une date parce que certains ont...
Et avoir des avions et pouvoir sortir du pays.
J'espère qu'avec l'éventuelle perte financière, Thiago Silva pourra quand même revenir à Paris et se payer un billet d'avion.
Ne vous inquiétez pas,
avec madame.
Information de 19h. Je voulais également préciser quelque chose au niveau de l'écosystème de l'entreprise de spectacle, si on peut si tenter qu'un club soit une entreprise de spectacle, en tout cas une entreprise. Parce que là, on parle d'argent, on parle de gros sous, on parle de joueurs quand même assez privilégiés dans leur ensemble. Ceux qui nous écoutent là doivent se dire, mais attendez, ils sont sur une autre planète, et nous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous sommes supporters d'un club. On va nous remettre le championnat, la suite et la fin du championnat en juillet et au mois d'août. Mais les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont sacrément secoués également économiquement, qui seront eux aussi au chômage partiel. Et dans l'écosystème, vont-ils aller au stade encourager sur les 10 journées qu'il reste leur équipe préférée? Donc ça peut mettre également en péril.
C'est terrible ce que vous dites, parce que ça veut dire que je pense que nos dirigeants, avant de penser sur l'état des lieux financiers, des salaires de leurs joueurs et de l'avenir du club, ils doivent y penser, mais il faut qu'ils aient vraiment une grande pensée pour leurs supporters. Parce que c'est quand même leur mine d'or, leur fonds de commerce, quoi. Et donc, à un moment, s'ils ne réfléchissent pas de comment on va pouvoir les récompenser de leur attente, et aussi, parce qu'il y en a qui se crèvent, il faut quand même le dire, le truc, qui se saignent pour pouvoir acheter un abonnement et suivre leur équipe.
Et en même temps, dans le même temps, Christian, on est obligé de te dire que ça sera tellement une bouffée d'oxygène que de retrouver le chemin des stades et de revivre que.
Bien sûr, il y aura la volonté d'aller voir des matchs, la volonté d'acheter des maillots.
Exactement,
bien sûr.
On est quand même rendu à revoir en replay des matchs de Ligue 1 de début de saison. Quand tu passes t'asseoir à regarder
de Ligue 1, c'est dur quand même.
Un Metz-Brest, tu dis vraiment que le foot te manque.
Une soirée France-Danemark.
Oui, oui.
Faut quand même être un peu schizophrène.
On reste sur une chose également un peu plus positive pour les clubs. Ce sera peut-être pour certains clubs. Tiens, on va prendre l'exemple de l'Olympique de Marseille, de négocier quelque chose sur le chapitre du fair play financier.
Ah, ça va être compliqué.
L'UEFA risque de passer complètement l'éponge au niveau européen et la DNCG.
Oui, mais sauf que le fair play financier là concernant l'OM s'applique sur les saisons précédentes, puisqu'on sait qu'il y a un contentieux, il y avait un accord entre l'OM et l'UEFA que l'OM n'a pas respecté, en tout cas l'UEFA estime que l'accord n'a pas été respecté, et c'est sur une période qui précède largement la période du coronavirus. Donc je suis pas sûr du tout que l'UEFA soit consignante.
Ah, c'est même certain, l'UEFA a déjà fait savoir qu'il y aurait effectivement serait conciliant sur ce qui se passe maintenant.
Maintenant,
c'est-à-dire sur les pertes qui sont générées par la crise du coronavirus, mais tout ce qui s'est passé avant
les 90 millions d'avant
qui se sont accumulés. Là, pour le coup, faudra en rendre compte.
Et l'UEFA, on est à chercher quelques millions d'euros parce que en décalant l'euro 2021, bien qu'elle ait démenti ensuite, elle aurait réclamé dans un premier temps 300-400 millions auprès des clubs et des ligues pour la démentir.
C'est toujours un jeu de poker, et l'UEFA de toute façon n'a absolument aucun intérêt à ce que des clubs majeurs comme l'Olympique de Marseille mettent la clé sous la porte, donc il y aura aussi négociation jusqu'au dernier moment.
Peut-être, mais si on attend un moment un geste de ces gens-là, tu peux te mettre le doigt dans le nez bien profond, hein. Ils ne feront jamais rien. Ces gens-là, c'est une boîte privée.
Mais c'est pas de la solidarité, c'est un rapport de force. C'est juste jusqu'où est-ce que tu as besoin d'avoir certains clubs dans ton écosystème.
Quelle est sa position dans l'écosystème?
Ouais. C'est sûr que c'est plus important d'avoir Marseille que Guingamp, ça, dans leur vision des choses, comme tu dis. Mais
je pense que pour l'UEFA, c'est ni l'un ni l'autre, non?
Non, parce que Guingamp, c'est le mauvais exemple, parce qu'il y a un dirigeant du club français qui a quand même toujours
son
petit serviette à Guingamp, et il ne faut pas toucher Guingamp.
Alors, on répond par oui ou par non, finalement, la question. Le football français touché par le chômage partiel a-t-il les reins assez solides pour s'en remettre, Philippe Sanfourche? Oui ou non?
Encore une fois, tout va dépendre des semaines à venir. Si le championnat reprend, quelque part, pour être un peu cynique, comme vous le disiez tout à l'heure, pour certains, ce sera un décalage de trésorerie. Parce qu'après, si vous reprenez avec la même billetterie et les mêmes droits télé, vous aurez passé simplement un mois ou un mois et demi avec des charges moins importantes, avec des aides de l'État. Ce sera peut-être bon pour les finances.
Oui ou non, Florian Gazan?
Je l'espère, mais si ça dure, ça va être dur.
Oui ou non, David Ayello?
Non, si ça s'éternise au-delà de, je sais pas, de 6 mois, ça sera impossible à tenir pour les clubs français.
Oui ou non, Stéphane Poels?
Oui, pour les mecs qui sont blindés, non pour ceux qui sont déjà sur la corde rouge.
Donc si je compte bien, souvent je compte mal, ça fait quand même du 50-50 dans ce studio. Vous nous écoutez, vous nous rejoignez, on fait le match jusqu'à 20h sur l'antenne de RTL après avoir parlé du foot français touché par le chômage partiel et à s'être posé la question, a-t-il les reins assez solides pour s'en remettre? Dans la seconde demi-heure, nous parlerons des joueurs qui ont quitté la France, des calendriers nationaux, Ligue des Champions, qui sont sans dessus dessous. Faut-il faire des impasses de compétition comme le préconisait hier soir Jean-Michel Aulas sur cette même antenne? On parlera également de l'Euro 2020 repoussé en 2021. Est-ce que cela fait les affaires de l'équipe de France? C'est à suivre.
RTL, on refait le match.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous.
Il est 19h. Les informations, Alexandre de Saint-Aignan.
Près de 800 morts en 24 heures, c'est un nouveau record en Italie. La pandémie de coronavirus a fait jusqu'à maintenant 4825 victimes dans la péninsule. La population est actuellement confinée. On compte plus de 6500 nouveaux cas confirmés en Italie. Un autre record inquiétant alors que les services de santé italiens sont actuellement submergés. En France, face à la pénurie de masques, le gouvernement maintient la priorité au personnel exposé. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, il assure que le gouvernement a commandé plus de 250 millions millions de masques. Ils seront distribués progressivement aux professionnels de santé, en ville et à l'hôpital, mais aussi au personnel des EHPAD, à qui le ministre a promis 500 000 masques par jour. Malgré la réquisition des stocks pour le personnel soignant, une pharmacie de Haute-Savoie continuait à vendre des masques aux clients. Quelques 1700 masques FFP2 ont été saisis suite à un signalement. La pharmacienne les vendait à prix coûtant. Il n'y a pas eu d'enrichissement. Elle risque 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende. Malgré le début du printemps, les Français doivent rester confinés à la maison. Ce week-end, la police accentue ses contrôles dans les gares, les aéroports, dans les rues et partout en France pour tenter de limiter au maximum les déplacements et la transmission du coronavirus. Il y a eu près de 870 000 contrôles depuis mardi dernier. Quasiment 39 000 personnes ont été verbalisées pour non-respect du confinement en France. Face à cette crise sanitaire des mesures exceptionnelles, Édouard Philippe annonce la suspension générale du jour de carence dans le privé comme dans le public. La rémunération sera donc maintenue dès le premier jour en cas d'arrêt maladie, un geste salué par les syndicats. Autre mesure d'urgence, les routiers sont désormais autorisés à rouler plus longtemps que d'habitude et même le dimanche pour assurer l'approvisionnement des secteurs sensibles. Le texte a été publié au journal officiel, dérogation pour une période de 30 jours. À Bordeaux, les 6 patients acheminés depuis Mulhouse sont dans un état grave et stable selon les autorités de santé. Infectés par le coronavirus, ils ont été transportés par un avion militaire médicalisé pour tenter de soulager les hôpitaux du Grand Est. Une autre opération de transfert de patients aura lieu dans les prochaines heures, toujours avec la participation de l'armée. Un navire porte-hélicoptère va partir de Toulon à 20h, direction Ajaccio, pour soulager les hôpitaux corses. La météo demain, retour des belles éclaircies au nord de la Seine, avec un vent d'est sensible qui va rafraîchir l'atmosphère assez nettement dans le centre et le sud du pays. À l'inverse, un ciel nuageux, avec des pluies surtout entre l'Auvergne, les Alpes et la Méditerranée. Quelques éclaircies seront possibles en Roussillon, en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. Les températures pour demain après-midi, il fera 10 degrés à Cherbourg, on attend 11 à Paris, à Lille et à Nancy, 13 degrés à Brest, 15 à Besançon et à Biarritz, 16 degrés à La Rochelle, 18 à Ajaccio, 19 à Toulouse et 20 degrés à Nîmes. Il est 19h03 sur RTL, c'est la suite dont on fait le match avec Christian Olivier.
Prochaines informations à 20h Alexandre.
RTL, on refait le match.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match jusqu'à 20h ce soir avec Philippe Sanfourche RTL, Florian Gazan RTL, Les Grosses Têtes, David Aiello, Yahoo Sport et Stéphane Powels, journaliste indépendant. Messieurs, nous avons consacré la première demi-heure au football français et son volet économique avec ce chômage partiel donc qui menace et qui fait plus que menacer désormais puisque c'est officiel pour certains clubs et qui concerne les joueurs et tout le personnel technique, sportif et administratif. Deuxième heure qu'on va consacrer au calendrier. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant même le calendrier, je voudrais savoir si ça a été d'actualité depuis maintenant lundi, depuis que la mesure de confinement a été annoncée. Je voudrais savoir si le départ des joueurs à l'étranger vous a choqué. Alors pour mémoire, et évidemment là aussi liste non exhaustive, Neymar, Thiago Silva sont partis au Brésil, côté parisien, Cavani en Uruguay, Thiago Mendes, le Lyonnais, plus un autre Brésilien et un Belge, nous disait Jean-Michel Aulas hier, côté Lyonnais, sont partis également au pays. Dante, je crois, également au GC Nice est reparti. À Amiens, en revanche, les Colombiens Mendoza, Otero sont restés, alors que Kakuta, lui, a fait comme la bourgeoisie du 7e ou la bourgeoisie de Neuilly, il est parti en région. C'est-à-dire que lui n'est pas parti à Noirmoutier ou à l'île d'Oléron, mais il est parti en Vendée, où il a une maison de campagne. Est-ce qu'il faut reprocher aux joueurs au moins de s'être rapprochés de leur pays natal?
C'est un peu compliqué. Moi je peux comprendre, ayant choisi de vivre mon confinement seul, donc je pense que je vais peut-être pas voir mon fils pendant 2-3 mois si ça dure. Je peux comprendre que pour des joueurs a fortiori étrangers, notamment les Sud-Américains qui sont quand même très famille et qui sont souvent sujets un peu à cette saudade, comme on dit, ce blues du pays, je peux comprendre qu'ils aient l'envie d'aller vivre ce confinement dans leur pays natal. C'est quand même des gens qui sont déracinés, ils sont pas forcément tous hyper méga intégrés. On voit par exemple Marquinhos, ça fait le choix de rester, mais on sent que c'est quelqu'un qui est plus dans une vie parisienne. Voilà, c'est quasiment un Français.
Ses enfants sont nés en France.
Voilà. Excuse-moi, avec une formidable vidéo également. Hein, c'est Marquinhos et Paredes. je crois.
Non, c'est Di Maria et Paredes.
C'est Di Maria et Paredes.
Qui discutaient sur les balcons.
Et Marquinhos est resté.
Donc je peux le comprendre. De toute façon, effectivement, plus on circule, plus on peut mettre en péril les autres. Mais à un moment donné, tout le monde a bougé. Nous, pour venir, on a bougé. On a peut-être travaillé
pas pris l'avion, pour venir ici.
Voilà, il y a des Français qui sont rentrés chez eux, qui ont choisi de voyager, puisque le président avait autorisé qu'on ait une période pour aller choisir son droit de confinement. Ils ont choisi ce confinement-là. Moi, ce que je regrette, c'est que je trouve qu'ils sont partis un peu tard. Voilà. Par rapport au moment où c'était décrété.
Et je rappelle, pour bien recadrer les choses, que j'ai vu ça ce matin dans la presse, près de 300 000 Parisiens ont quitté la capitale. Hein.
Oui, oui. Ouais. Et certains reviennent parce que maintenant, on a fermé les plages.
Oui, ou alors parce que Internet ne fonctionne pas à la maison de campagne. Voilà.
Non, mais... Exactement.
Stéphane Pauwels.
Oh, bah, je sais, vous n'allez pas tous être d'accord, mais... Franchement...
Allez, lâche-toi. On sent que tu ne vas pas y aller.
Toi, tu n'es pas retourné en Belgique.
Moi, je suis de nationalité belge, et vous savez très bien que je revendique, et que ça, on me chambre beaucoup avec ça. Ma compagne est française. J'ai la chance, parce qu'à un moment, la France, elle n'est pas là que dans les bons moments. C'est-à-dire que dans les mauvais moments, moi, j'ai envie d'être solidaire, pour deux raisons. D'abord, mon épouse travaille, ma compagne travaille à la maison. De deux, je pense qu'il y a des employeurs qui me paient sur Paris, et donc je me vois mal partir et fuir. Parce que moi, j'appelle ça fuir, parce que, vraiment, ma famille aussi, je suis comme toi, j'ai une grande fille de 20 ans, elle est en Belgique, elle me manque, j'ai envie de la voir aussi. On a maintenant des téléphones. J'ai mes parents, donc j'ai aussi des membres de famille. Moi, je ne suis pas parti. J'aurais pu, hein. Vous savez, ça aurait été très facile. Je prenais une voiture, je rentrais en Belgique, et, comme a fait Thomas Meunier ou d'autres. C'était pas compliqué. De deux, nos amis brésiliens, ils ont leur épouse, leurs enfants, et ils vivent pas dans 10 mètres carrés, quoi. Et je pense qu'ils ont quand même une qualité de vie. Alors, le manque des parents... au Brésil.
On peut le comprendre.
On peut le comprendre, mais moi j'ai aussi le manque des miens qui sont en Belgique. J'ai juste envie de vous dire.
Le déracinement n'est pas le même.
Le déracinement entre le Brésil et le déracinement n'est pas le même, mais moi j'ai envie de vous dire. Et je vais vous redire la même phrase. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi j'aime ces pays qui est la Belgique, mais j'aime la France aussi. Mmh. Et il y a des gens qui m'emploient et qui me paient. Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain sont payés aussi par un employeur. Et donc, c'est personnel, mon avis, mais j'ai envie d'être solidaire. J'ai envie, parce que vous savez, c'est très facile en Belgique. Les conditions sont beaucoup moins drastiques qu'en France. On n'a pas besoin de papier, on peut circuler différemment. On est moins compliqué. Moi, j'ai envie de vous dire, je trouve ça, c'est une forme de lâcheté. C'est personnel. Je ne vous dis pas que j'ai raison. On est sur une radio libre, on peut avoir un avis.
C'est débat.
Et moi, j'avais envie d'être solidaire avec la France.
Mais qu'est-ce que ça change, Stéphane, fondamentalement, que Neymar il soit à Bougival ou à Rio enfermé? Qu'est-ce que fondamentalement ça change? Qu'est-ce que ça apporte en termes de solidarité?
Si je peux répondre à la question,
d'abord, je vais te dire.
Ça change deux choses. D'abord, on n'est pas certain qu'ils aient obtenu l'autorisation de leur employeur, premier point.
Alors, ça, c'est autre chose.
Et deuxième point, on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront revenir et donc satisfaire aux exigences de leur employeur pour jouer éventuellement en forme. Ça, c'est une chose.
Troisième chose, Christian, les normes de sécurité par rapport au coronavirus, ça veut dire qu'on...
Dans leur pays.
Mais même, Christian, se déplacer au Brésil...
Mais on n'est pas du tout certain qu'ils reviendront, parce que ceux qui reviendront en priorité, c'est la zone Schengen. Mais hors Schengen, on n'est pas du tout certain que Neymar et compagnie reviendront en imaginant que le championnat de France...
Mais même voir leurs parents... Le Brésilien qui part au Brésil, Florent, il doit y voir ses parents, mais il ne peut pas normalement, par rapport aux normes du virus, il ne peut pas aller voir ses parents, puisqu'il a voyagé, qu'il pourrait impacter sa propre famille. D'être seul, d'être confiné.
C'est
valable
si tu restes en France et que tu bouges. Hein.
Non mais Stéphane, moi j'entends ce que tu dis.
Mais c'est ce qu'on reproche aux Français qui bougent trop et qui
C'est ça que je te dis. Et la femme, excuse-moi, et juste après je me tais, et l'épouse, et c'est ça qui m'a gonflé.
Ça, on en parlera, parce qu'il y a une communication absolument désastreuse.
L'épouse, parce qu'elle ne peut pas faire ses courses, qu'elle n'a pas assez. Il faut arrêter de déconner.
Pour moi, là,
Isabelle Silva qui ne peut pas faire ses courses.
Non mais il faut arrêter, à un moment, il faut être sérieux un peu.
Tu l'as dit, tu as exprimé ton point de vue, on est là pour ça. Après, moi, dans la période actuelle, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans des pseudo-polémiques, tu vois, sur qui fait quoi, sur des choses qui sont pas fondamentales.
Mais je suis pas d'accord.
Pour moi, c'est pas fondamental. Effectivement, ces deux joueurs-là sont partis. Pour moi, à la limite, ce qui est le plus intéressant ou ce qui est le plus critiquable dans cette histoire, c'est effectivement la communication, pour le moins maladroite, de Madame Silva. On rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire.
Elle a préféré retourner au Brésil en première communication, parce qu'ensuite elle a rectifié le tir elle aussi, où elle a fait marche arrière, comme tu veux. Mm. Mais en première intention, c'était de dire il est impossible de faire des courses, il n'y a plus rien dans les supermarchés.
Je trouve pas de PQ aux Champs-Élysées.
Donc je préfère retourner au Brésil.
Donc
je je préfère retourner au Brésil où là, on suppose qu'elle pourra faire ses courses plus facilement. Mais en plus, c'est bien pour les gamins parce qu'il y a une piscine. Je pense quand même que c'est plutôt maladroit, voire même un peu déplacé.
Philippe Après, le problème, c'est que la lecture de tous ces événements se fait au fil de l'eau. Et ce qui est choquant aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a 24 heures ou il y a 48 heures. Je vous rappelle quand même que ici même, dans ces studios, le 11 mars dernier, c'était quand même hier, on fêtait la qualification du Paris Saint-Germain et peu de gens trouvaient déplacé le fait que les joueurs du Paris Saint-Germain soient au milieu des supporters.
Vous rigolez ou quoi ? Une qualification. À cette antenne, sur ce, à ce micro ici, David était là, je me suis insurgé que
c'était
4000 personnes, c'était une semaine après. Mais je me suis insurgé déjà
après.
Le lendemain.
Sur le moment même, ça a commencé à effleurer un petit peu les esprits sur la fin de soirée. Mais
tu rappelles précisément les gestes de démonstration de joie de Kurzawa avec le public.
De toute façon, il y a eu un sondage qui a été fait. Une majorité des Français approuvait la partage.
Ce que je veux dire, c'est qu'une même personne censée avec une capacité d'analyse normale va pouvoir prendre une prise de décision un jour qui sera peut-être différente 24 heures plus tard, puis 48 heures plus tard, parce qu'on est dans une période qui est très évolutive avec des choses, avec une façon de voir les choses qui est très...
Kurzawa a fait n'importe quoi.
Quand on a vu...
Mais c'est facile de le dire après.
Non, mais je l'ai dit le lendemain, moi.
Au moment, à l'instant T, j'ai pas entendu beaucoup de voix pour dire...
Si, Philippe. Même en amont, Philippe.
Non,
et même
on
en
amont. Entendu,
parce que quand on a appris que tous les supporters voulaient aller autour du Parc des Princes et du côté de la Porte d'Auteuil, en amont, sans savoir combien ils pouvaient être, on s'est dit c'est pas normal d'avoir un tel rassemblement. Et on ne pensait pas qu'il y aurait 4000 types, effectivement. Mais même 200, 300, 400, en imaginant que c'était ça en amont, on se disait.
Mais Philippe a raison de rappeler que le contexte a évolué tellement vite que sur l'instant, ça s'est joué en l'espace de 24 heures sur cet instant T où on s'est dit tiens, il se passe quelque chose. Qui ne devrait pas se passer. Mais 24 heures avant, la préoccupation de la préfecture, c'était il y a la sécurité.
Puisque la
préfecture a pris ses décisions, notamment sur le fait d'assurer la sécurité publique. Ils avaient des craintes de ne pas pouvoir gérer les troubles si on n'avait pas autorisé le rassemblement.
Mais c'est pour ça qu'ils ont interdit l'écran, d'ailleurs, pour pas qu'il y ait trop de monde.
Mais on savait très bien que ces rassemblements pouvaient être dangereux, puisque même avant cet épisode-là.
Mais la barre était encore à 1000 à l'époque.
Les 20 km de Paris ont été supprimés. Donc on savait très bien qu'avec un confinement plein air, avec des gens.
C'était dangereux.
Et on n'était pas dans une telle actualité à ce moment-là, mais les pouvoirs publics l'avaient déjà anticipé.
Les gens n'ont pas mesuré.
Le contexte n'était effectivement pas exactement le même. Et ça va très vite.
Je suis désolé, les dirigeants du Paris Saint-Germain qui avaient même organisé que les joueurs puissent aller un moment faire coucou aux supporters qui étaient à l'extérieur, n'ont pas tous, personne n'a mesuré de la dangerosité de ce virus, et je trouve qu'à un moment...
Pas qu'ils leur fassent coucou à 50 mètres, il n'y avait pas de risque.
Tu pensais franchement qu'ils allaient faire coucou à 50 personnes
à 50 mètres. Je dis, ils étaient à 50 mètres de distance.
Oui, il y avait une distance de sécurité. Même les 4000 qui sont dans Kurzawa qui va faire la fête du slip avec eux.
Si on peut revenir un peu sur la communication effectivement des joueurs ou des épouses des joueurs, mais des joueurs également, parce que Thiago Silva, en arrivant à l'aéroport brésilien, on a quand même rajouté une couche en disant que la France n'avait pas réussi à se protéger. Mais ferme ta bouche, Thiago Silva.
C'est très
ferme ta bouche.
C'est maladroit et malvenu.
Ça c'est grave.
Franchement.
Ça c'est grave. Ça c'est vraiment malvenu.
Est-ce qu'on lui rappelle que son président Bolsonaro, lui, a qualifié ce virus au départ de simple grippe et qu'il y avait des gens qui manifestaient en faisant du bruit aux fenêtres pour dire Bolsonaro, tu es un fou.
On rappelle aussi que c'est un joueur qui pleurait encore il y a deux mois dans la presse, notamment dans le journal L'Équipe, pour avoir une prolongation de contrat. Ça n'a rien à voir. Et bien, un moment. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer le comportement. Quand il y a un moment, tu es un mec qui joue dans un club, qui est souvent blessé dans des moments cruciaux, qui à un moment revendique une prolongation, et bien, t'as au moins l'élégance de fermer ta bouche, comme dit Christian Olivier.
Mais de toute façon, tu la fermes.
Je vais aller plus loin, même si vous pensez que c'est de la démagogie. Quand il y a un moment, si vous m'avez demandé le seul Brésilien qui se serait bien tenu, qui aurait eu une attitude correcte, je vous aurais dit Marquinhos. Le même mec qui, quand ils ont été célébrés le but et qu'ils ont chambré le joueur du Borussia Dortmund, c'est le seul qui n'était pas là sur la photo.
Mais il est en train de répondre à la presse à ce moment-là.
C'est un mec qui a de l'élégance, c'est un mec qui a de la classe. Ça s'appelle l'éducation, tout simplement.
Messieurs, c'est très personnel. Je pense que c'est très personnel de vouloir rejoindre sa famille, etc. Ce qui l'est beaucoup moins. Et là, je ne comprends pas comment ces joueurs-là ne sont pas davantage conseillés en communication. C'est les maladresses ou de leurs épouses ou d'eux-mêmes lorsqu'ils ne sont plus sur le sol français. C'est ça qu'on peut leur reprocher.
Après, on est tous un peu à fleur de peau et on interprète les choses de manière différente. Moi, pour avoir lu précisément les déclarations de Thiago Silva à son arrivée au Brésil, ce qu'il dit, c'est en France, le président Macron a pris des décisions. Manifestement, ça n'a pas suffisamment bien fonctionné, même s'il a voulu faire bien, que les Italiens avaient déjà du mal. Et on s'aperçoit qu'ici au Brésil, ça va évoluer aussi. j'ai pas trouvé qu'il était vindicatif et qu'il il était en train de dépeindre une situation catastrophique en France et que c'était la raison pour laquelle il avait dû fuir.
Oui, mais alors, c'est pas contrepoint, ça que j'ai lu, moi. Non, pas fuir, ce n'est pas un déserteur. C'est simplement un peu maladroit dans la façon d'expliquer pourquoi il a voulu rejoindre ses proches au Brésil. Et à contrario, malgré tout, si on rentre dans l'argument que tu mets en place, alors quid de Marquinhos, quid de Paredes, quid de plein d'autres qui restent effectivement...
Tout ça est très personnel. C'est personnel. Alors, chacun vit ça. On n'est pas dans cette situation-là. Effectivement, on l'a dit, être déraciné du Brésil, c'est sans doute différent, on le vit pas, chacun le vit à sa façon.
Ça posera de toute façon un problème en cas de non-retour à temps des joueurs, et on en parlera après.
Déracinement, c'est dur, regardez.
Au moment où le championnat reprendra, dans quelles conditions ces joueurs-là, on les retrouvera, à suivre.
RTL, on refait le match.
Bonne nouvelle.
République France.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL, plus que jamais, toujours avec vous.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match jusqu'à 20h avec, je le précise à tous ceux qui nous écoutent, et vous êtes très nombreux à en lire vos réactions, avec les conditions sanitaires et les distances barrières, comme on dit, qui sont respectées dans ce studio, avec l'obligation de prendre sa température lorsque vous êtes messieurs tous arrivés à RTL, avec également l'obligation de se laver soigneusement les mains. Et si nous sommes là, c'est aussi pour vous informer, pour vous changer les idées, pour vous faire participer avec vous à notre passion du football. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Avant de parler du calendrier chamboule tout, un mot de conclusion sur ces joueurs qui potentiellement arriveront en forme ou pas au moment où le championnat reprendra, potentiellement ou pas. Nous en parlerons dans un instant. Qui a un avis sur la question, Florian Gazan?
C'est de la responsabilité individuelle de chacun, ce qu'on appelle le fameux travail invisible, et je suis pas sûr qu'il y ait certains joueurs qui soient pas restés en France, qui ne soient pas plus hors de forme que ceux qui sont partis à l'étranger, suivez mon regard, sur certains qui ont l'habitude, dirons-nous, de profiter.
C'est dur en radio le regard, il faut des noms.
Ceci dit, Christian, c'est vrai que c'est cette question-là sur l'état de forme des joueurs, même si évidemment c'est anecdotique sur la situation générale, mais là on est dans une émission de foot, donc évidemment on en parle.
Parce que c'est pas un droit de retrait là, hein. C'est un droit de confort pour ces joueurs.
Ceci dit, sur la durée, tenir ces programmes-là, quand je parle de la durée, c'est-à-dire peut-être 6 semaines, c'est quand même extrêmement difficile. Je veux dire, s'entraîner chez soi 1h30 sur un tapis ou des choses comme ça.
Bon, ils ont des jardins.
Oui, mais même, vous savez ce que c'est.
Après, la fermeture de toutes les discothèques et des établissements de nuit fait que c'est si un avantage, la Ligue des Champions reprend, le Paris Saint-Germain va avoir un sérieux avantage par rapport à ses
compétences. En Belgique, on est vraiment.
Non, c'est la fête qui les soude, je te rappelle.
Ah oui,
il y a des
fêtes qui sont embêtés.
Ils sont fermés actuellement au Brésil.
À Copacabana, tout est ouvert. Nous, en Belgique, on est vraiment ennuyés, ils ont laissé des baraques à frites ouvertes. Et donc, pour les joueurs de foot, c'est un véritable problème. Mais plus sérieusement, le travail terrible qu'il va avoir dans le... Voilà, purement sérieusement au niveau du sport, c'est les préparateurs physiques qui ont maintenant du travail de dingue à faire à chaque joueur individuellement un programme. Et il faut que ces joueurs-là puissent respecter ces programmes. Et c'est là aussi la difficulté de la distance. Alors vous allez me dire, il y a la vidéo, maintenant, il y a tout ça.
Ils sont connectés par GPS.
GPS. Mais il va falloir quand même que les mecs ont une grande conscience professionnelle pour te dire, tu ne manges pas ça, tu t'entraînes autant, tu fais tes abdos, tout ça.
Ça va peut-être dépendre aussi des enjeux sportifs pour certains clubs. C'est-à-dire que pour les clubs qui étaient là en milieu de tableau dans le ventre mou, je pense que là, la fin de saison, si ça reprend, ça va être très compliqué. Pour ceux qui ont un enjeu à venir, que ce soit le maintien ou les Coupes d'Europe ou le podium, ça peut être plus motivant.
Mais la difficulté, c'est que les joueurs vont devoir comprendre qu'ils ne sont pas en vacances. Ils sont arrêtés.
C'est ça,
et quand même nous, on le voit au quotidien dans nos confinements, on n'est pas en vacances. On est confinés. Et déjà par là que ils vont forcément peut-être prendre ce rythme vacances, suivre le programme et vite fait faire un footing. Sauf que quand tu vas reprendre, là, il n'y aura pas une préparation d'avant reprise du championnat, d'un mois, les stages, etc. Ça va repartir taqué et on risque d'avoir surtout aussi des blessures.
Et des grosses surprises. Des blessures, des grosses surprises. Vous savez, comme moi, pour démarrer une saison, c'est les stages de préparation qui sont le plus important. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont transférés à Noël et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas fait le stage d'été. Ici, c'est comme dit Florian, ils vont arriver. Et boum, au taquet tout de suite. Celui qui n'aura pas respecté sa condition physique, et vous savez comme moi que s'entraîner individuellement et collectivement, c'est quand même pas la même chose. Le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, c'est autre chose que faire un footing sur du tapis. Ça va être très compliqué, et c'est là où on va voir les vrais pros.
Le football, messieurs, les vrais pros, sur le terrain. Alors, une Ligue 1 qui pourrait reprendre quand? Fin juin, ou plutôt qui pourrait s'arrêter fin juin, qui pourrait s'arrêter... Alors, fin juin pour Jean-Michel Aulas désormais, mais alors, on peut aller jusqu'à fin août pour Noël Le Graët.
Effectivement, si on fait un petit résumé rapide de ce qui s'est passé hier, en fin de matinée, l'ensemble de la famille du football français, Noël Le Graët, les représentants de la Ligue, Nathalie Bois de la Tour et Didier Quillot, tous les présidents de Ligue 1.
En visioconférence.
Tout ce petit monde en visioconférence s'est réuni avec les préconisations de Noël Le Graët, qui avait lui aussi été informé des préconisations de l'UEFA la veille, à savoir eh bien reporter, si possible, de 15 jours, peut-être d'un mois, voire peut-être aller sur le mois d'août, pour pouvoir terminer l'ensemble des compétitions. Parce qu'on voit
que pour l'instant, on dit l'ensemble des compétitions, on dit Ligue 1, il reste 10 journées. Ligue des champions.
Ligue des champions.
Avec, on en est encore au stade des huitièmes de finale.
Avec un quart,
il reste des huitièmes.
Oui, il reste des huitièmes et ensuite les quarts.
Les deux finales, Coupe de la Ligue, Coupe de France.
Voilà.
Et les deux matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande.
Et donc pour l'instant, les préconisations, on va dire.
Et les barrages, Ligue 1, Ligue 2.
C'est d'arriver à concilier tout ça dans un calendrier qui va se resserrer. Mais il faut bien aussi prévoir un cas de figure où il n'y ait pas suffisamment de temps pour que toutes les compétitions puissent se jouer. Et ce que Jean-Michel Aulas, lui, préconise, et qui ne va pas du tout dans le sens de Noël Le Graët,
et qui nous a annoncé sur RTL hier,
et il a raison,
c'est de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où la pérennité financière des clubs, c'est le championnat, avec les droits télé de cette année, mais aussi ceux de l'année suivante. C'est-à-dire que Mediapro, qui met 1,2 milliard sur la table, c'est pas pour commencer sa saison de manière tronquée au mois de septembre, au mois d'octobre. Non, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il faut conserver le pactole de la saison prochaine. Donc, commencer à date. Et pour commencer à date, il faut terminer le championnat au 30 juin.
Donc, Mediapro,
quitte à supprimer la Ligue des champions, la Ligue Europe, les matchs et amicaux de l'équipe de France et les coupes nationales.
Je vais vous étonner, mais et Dieu sait que je ne suis pas toujours d'accord avec Monsieur Aulas, mais sur ce point de vue-là, il a raison. Je pense que, d'abord parce que c'est vital pour les raisons financières, comme vous dites, les droits TV, et puis surtout, ce championnat de France, il va bien falloir le terminer pour savoir qui sont les équipes qui vont descendre, parce que vous savez comme moi que descendre, c'est quand même, économiquement parlant, une grosse claque. Les accessites en Champions League, en Europa League. Donc, il faut terminer ce championnat.
10 journées.
Les finales de coupe, même chose, puisqu'il y a des accessites quand on gagne ces coupes.
Alors, Jean-Michel Aulas propose de supprimer la Coupe de la Ligue.
Alors, moi, j'ai envie de faire, de garder les deux coupes, de faire le championnat, mais la Champions League pour moi et l'Europa League, je suis désolé, on peut les arrêter, on recommencera l'année prochaine une nouvelle Champions League.
Match, c'est l'idée
mais,
de l'UEFA,
mais hormis du prestige, match. Mais hormis du prestige. Hormis du prestige, la Champions League, que tu sois Paris, Lyon.
Mais c'est pareil.
Mais non, c'est pas pareil.
Non, mais enfin, t'imagines la tête des Parisiens si on te dit qu'on fait pas la Ligue des Champions.
Et s'ils sont éliminés le tour d'après, ça va changer quoi?
Mais
en France, ça concerne qui? Lyon et Paris. Ça concerne qui, la Champions League? Vous parlez de collectif. La Champions League, ça concerne PSG
et Lyon.
Est-ce que vous pensez que les mecs de Nîmes, ils s'en foutent que Paris en Champions League?
Quand je te parle des amateurs,
ils s'en foutent complètement.
Aujourd'hui, le football qu'on aime, le football qu'on veut regarder, c'est la Ligue des Champions.
Mais tu vis au pays des bisounours.
Mais non, mais c'est ce que tout le monde te dit.
Les mecs des plus petits clubs, c'est pas ce que tout le monde dit. Tu dis que t'es parisien.
Tout le monde te dit ça. Le football de référence, c'est la Ligue des Champions.
À Guingamp, le football qui te fait vivre, c'est le championnat.
C'est le championnat qui te fait vivre.
Stéphane est en train de vendre le prestige. C'est pas seulement le prestige, c'est que le football, on le regarde parce que ça nous fait vibrer. Et ce qui nous fait vibrer, c'est la Ligue des Champions.
Je te dis que toi, ça te fait peut-être vibrer la Ligue des Champions, mais quand t'es dirigeant de Nîmes et que t'as envie de te maintenir en Ligue 1,
je suis d'accord
et d'avoir une stabilité financière pour ton club, t'as envie que le championnat se termine pour pouvoir survivre. Tu t'en fous pas mal que Paris joue au Champions League.
C'est vrai que le match du 9e contre le 10e de Ligue 1, il va être très important celui-là. Il va être très prestigieux aussi.
Bah oui, moi c'est le foot que j'aime. Toi peut-être pas, mais c'est le foot que j'aime.
Je l'aime pas, c'est que je dis juste que bazarder la Ligue
on
des
sera
Champions
pas d'accord,
comme ça,
mon bon David.
Bazarder la Ligue des Champions comme ça, moi, je me languis du retour de la Ligue des Champions.
Ben moi non. Moi j'ai envie qu'on aille au bout du championnat.
Le problème, c'est qu'il y a autant de scénarios et d'intérêts que de clubs. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu es classé, de ce que tu vises, tu n'auras pas forcément la même version et la même vision du championnat et de ce qu'il faudra supprimer ou pas. Donc c'est là où ça va être compliqué de s'entendre. Parce que malgré tout, ça reste aussi un sport individuel, diriger un club.
Alors on posera quand même, juste après une pause, dans un instant, la question de savoir si on peut quand même encore imaginer un championnat figé. C'est ce que réclamait dans un premier temps Jean-Michel Aulas. Il aurait été mal compris par nos confrères du soir Le Monde.
Personne n'a compris. Tout le monde a mal compris, finalement.
Mais ses explications étaient claires, en tout cas, hier soir.
Ce que dit Jean-Michel Aulas, c'est que lui, dès le début, avait évidemment, dans un premier temps, le souhait que le championnat arrive à son terme, mais que en responsabilité de chef d'entreprise, de président de club, il doit aussi anticiper le fait que peut-être que ce championnat ne se terminera pas, auquel cas il faudra prendre des décisions. Et lui, il les a anticipées.
Quand bien même le championnat ne reprendrait pas, est-ce que la solution prônée par Jean-Michel Aulas était la meilleure?
Ah, ça, c'est autre chose.
Bah oui, mais c'est le cœur du problème, il était là. Là, oui.
Philippe, question, puisque vous l'avez eu, monsieur Aulas. La volonté au championnat, on a bien compris, et sur cette coupe, sur ces deux coupes, où moi je pense qu'il faut aller au bout. Pourquoi lui ne souhaite pas aller au bout des deux coupes? Pour des raisons de calendrier, de ne pas les finir?
Ça fait deux matchs en plus, ouais, de toute façon.
Bah, est-ce que c'est la vraie raison?
Bah oui, mais ça fait deux dates.
Non,
bah,
mais
oui.
Attendez.
Est-ce que c'est la vraie raison?
Non, mais c'est cohérent. Pour le coup, qu'est-ce que tu sous-entends?
Attendez,
je pense que là, monsieur Aulas, il doit avoir un intérêt personnel pour pouvoir revendiquer ça.
Tu veux dire qu'il... Est-ce que tu es en train de dire qu'il ne souhaiterait pas jouer la finale de Coupe
non,
de
fallait...
la
Ligue? En termes de com', déjà, fallait qu'il
J'assume.
Se rattrape. Parce qu'il est passé pour le dernier des égoïstes, donc en termes de com', il fallait qu'il se rattrape. Quand il fait ses propositions, tout le monde est obligé tout de suite de constater que il propose d'éventuellement bazarder la Ligue des Champions alors qu'il est encore engagé dedans. Et la Coupe de la Ligue alors qu'il est encore engagé dedans. Donc ça prouve quelque part qu'il a pris conscience qu'il était allé trop loin. D'accord. Ça, en termes de com', c'est plutôt un bon coup.
Non, mais ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein.
On fait le match avec David Aiello, Stéphane Powell, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Restez avec nous, restez confinés, restez à l'écoute, restez chez vous surtout. Nous sommes avec vous pour parler de l'actualité football. Derrière une courte respiration, on parlera de l'Euro 2020, repoussé à l'Euro 2021. Et puis, je le disais dans le sommaire, toute l'actualité football n'est pas au chômage partiel puisqu'il y a crise à Angers. Il y a Puel qui essaie de faire un putsch à l'AS Saint-Etienne. Il y a Rennes, il y a un nouveau président. On parlera de tout ça évidemment jusqu'à 20h. Publicité.
RTL, on refait le match.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h, bien évidemment, avant de retrouver... Tiens, je vais demander à Lucas la réalisation. J'ai un petit trou de mémoire derrière 20h au programme. Bonus track, Eric Jean-Jean, bien évidemment. Bonus track, Eric Jean-Jean.
On le salue d'ailleurs, on vient de le voir à travers la vitre.
À travers la vitre. Il faut tout raconter. Il faut tout raconter. Alors dites-moi les amis, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'économie du foot français depuis 18h30. On a parlé des impasses éventuelles de compétition. On a parlé du calendrier Ligue 1, Ligue 2, très peu, mais tout de même Ligue des Champions. On va parler de cet Euro 2020 repoussé à 2021. 11 juin, 11 juillet. Ça, c'est une certitude. C'est coulé dans le bronze. Ça va peut-être coûter cher à l'UEFA, qui a de l'argent, ça c'est pas très grave.
Hein. Mais, c'est comme l'État, c'est l'argent de chacun. L'UEFA,
c'est le vôtre.
C'est l'argent de tous les, de toutes les fédérations, de toutes les ligues. Et quand on dit que le report d'un an de l'euro va coûter 300 millions d'euros, l'UEFA est déjà en train de demander aux fédérations et aux ligues de voir comment ils allaient pouvoir contribuer à cette.
Ils font marche arrière déjà un petit peu.
J'attire votre attention que l'UEFA a commis une petite erreur, c'est-à-dire que voulait garder le titre Euro 2020 alors qu'on était en 2021. Oui. Ensuite, apparemment, le tweet de communication de l'UEFA est parti un peu trop tôt.
Oui. Ça pourrait être un signe d'économie, t'as pas à changer le logo, tu gardes le nom.
Ça peut coûter très cher.
Ah ouais, parce que ça coûte une blinde. Hein. Oui, attention.
Après, ça fait 15 ans que le Dakar s'appelle toujours le Dakar.
On en a vu l'autre.
Plus du tout en Afrique.
Mais j'avais entendu, Christian, vous avez fait un billet en matinale cette semaine, vous avez fait un billet sur 7 euros en disant comment organiser cet euro avec 12 pays différents, c'était juste impossible de l'organiser. Donc je pense qu'il n'y avait pas à réfléchir. Je voyais partout dans les médias, c'était est-ce qu'on va le garder, pas le garder cet euro. C'était juste, en termes de sécurité sanitaire, juste pas possible.
12 pays, 12 villes.
Et en plus, c'est le plus simple. C'était le plus simple.
Donc ça, je pense que l'affaire, elle est claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui se plaint que l'euro ne va pas se jouer? Hormis pour des problèmes financiers, personne ne se pose la question.
En plus, il va être reporté.
L'euro ne peut pas se jouer, de toute façon, il n'y a pas à discuter.
Non, c'est clair. Donc, maintenant, où est le problème de jouer dans un an? Il est où le problème? Je vous pose la question.
Pas de problème. Alors,
il y a la Coupe du Monde des clubs.
Si on veut rentrer dans ce qui peut chagriner, chiffonner un peu, moi, je trouve que cette formule. Qui déjà me plaisait pas à la base parce que pour moi c'est pas l'esprit d'une compétition en un même lieu où d'un seul coup on respire, on vit dans un pays
Michel Platini si tu nous écoutes.
Oui mais d'ailleurs je suis pas certain qu'avec le recul il estime que ce soit une si bonne idée.
En même temps c'était plus simple
on peut toujours
à
se
déplacer,
tromper, c'est pas y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Mais le fait est que maintenant qu'on a le choix, je trouve que de figer ce format qui entre nous soit dit aussi, en termes de bilan carbone, est assez dramatique quand même. Je veux dire, de faire des déplacements pendant un mois sur 12 villes, 12 pays.
Le bilan carbone, tu auras le même l'année prochaine. Hein.
Bah ouais.
Non, oui, d'accord, mais c'est pas ça que dit Philippe.
Non, Philippe veut refiger l'euro dans un seul
pays.
Voilà. On sait que c'est compliqué désormais parce que le cahier des charges est important et que, en gros, si on doit schématiser, à part l'Angleterre, la France et l'Allemagne, il n'y a pas un pays qui est en capacité de faire seul un euro. Donc, à la limite, une co-organisation, mais 12 pays.
Oui, mais là, tu imagines les failles juridiques dans lesquelles les pays qui devaient accueillir 2-3
impossible. Oublie.
On n'est pas à ça près avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Parce que sur le plan juridique, il va y avoir des
non, mais les mecs qui ont investi pour des stars, des compagnies.
Mais c'est vrai que là, vu le timing, ça me paraît compliqué de changer de formule et de
passer. Tu vas expliquer aux Anglais qui n'auront pas la demi-finale et la finale chez eux.
Non, je pense que les Anglais auront les deux.
Bah oui, les auront. Mais tu vas imagine maintenant que tu changes et tu décides de faire cette compétition dans un pays et c'est pas l'Angleterre.
Je viens de dire que l'Angleterre était la plus qualifiée, justement.
Ah, donc il faut le faire en Angleterre, Philippe Sanfour.
C'est génial de faire l'euro dans un pays qui n'est pas
le lobby pour les Anglais. Je trouve que c'est pas dans l'air du temps et que ça allait de moins en moins avec ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il a dit, Florian ?
Et oui, Florian, c'est vrai qu'après tout, l'Angleterre n'est plus, enfin, ou bientôt, ne sera plus dans l'Europe.
Alors, bien sûr. Non, mais symboliquement, cette histoire d'Euro 2020 avec 12, c'était justement pour les 60 ans de l'Union européenne.
Ouais, ça, ouais, de l'UEFA, ouais.
Et donc, ce serait joué l'année où, avec la finale à Wembley, l'année où l'Angleterre quitte.
On est là pour se moquer, pour critiquer. C'était, mais alors, qu'est-ce qu'on propose ? On propose un euro dans 12 pays et dans 12 villes pour l'année prochaine, du 11 juin au 11 juillet prochain, où on peut imaginer un euro dans un seul pays.
Est-ce qu'on a une autre solution ?
Pour éviter que le bilan carbone ne finisse
pas. Ça va pas se faire.
Ah oui, c'est pour Philippe.
Très écolo, Philippe Sanfour.
C'est important quand même. Ceci dit, une fois qu'on a rappelé que l'inconvénient effectivement du bilan carbone de cet euro dispersé, il me semble quand même que là, c'est un moindre mal qu'il soit déplacé. On avait un nœud dans le calendrier avec cette date butoir début juin qui bouchait l'hypothèse d'une élongation du championnat. On voit bien que ce report a permis quand même de se donner beaucoup d'air. Et d'un seul coup, on se dit, on a juin,
ça fait du
on a
bien.
Juillet,
ouais.
On a potentiellement août derrière pour pouvoir rebondir. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose.
C'est une bonne
et c'était la meilleure
Puis surtout, Eden Hazard, il va pouvoir se taper.
C'est de très très loin au football féminin, mais il y a aussi l'Euro féminin qui devait se jouer l'été prochain.
Et David Ayello qui s'intéressait au championnat des clubs de très haut niveau avec la Ligue des Champions, subitement ne s'intéresse plus au championnat du monde des clubs organisé par la FIFA. Ah,
mais
ça, c'est l'année prochaine.
Voilà. Oui, mais ça aussi, parce que la FIFA va avoir son mot à dire.
Ça n'existe pas, ça, de toute façon, pour l'instant. Donc, ça tombe bien.
C'est une création.
Oui, mais justement, c'est encore plus facile à.
Parlons un peu foot.
Est-ce que ça va profiter à Didier Deschamps ?
Non, mais surtout, en tant que Belge,
il y a que ça qui m'intéresse.
À Eden Hazard, c'est ça qui m'intéresse. Parce que comme il est clopin.
D'accord.
Mais c'est le bon exemple. Voilà le bon exemple. Vous parlez des joueurs français. Et voilà pour la Belgique, le bon exemple que l'euro ne se fasse pas maintenant. Parce que je pense pas qu'il aurait pu courir et être à 100%.
Globalement, c'est bien pour l'Angleterre parce que Kane sera un peu plus retapé.
Bah oui, voilà, je taquine.
Pour les Pays-Bas, Depay sera un peu plus retapé. Globalement, oui.
Et puis Griezmann aura un nouveau mental.
Une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, c'est que là, Olivier Giroud sera trop vieux.
Il est incroyable.
Mon Dieu, il est incroyable.
Je pose la question.
Que vous dites, c'est jamais que dans un an, on connaît la force mentale de ce garçon qui se sort de toutes les situations les plus inextricables. Je pense qu'il est tout à fait en capacité. Vous diriez, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, là, effectivement, c'est mort. Mais dans un an, mais pourquoi pas ?
Vous savez que sur Olivier, nous ne sommes pas vus à 33 ans.
Je pose la question, j'adore Olivier Giroud.
Non, mais compte tenu en plus du fait que Didier Deschamps est quand même extrêmement bienveillant avec lui et qu'il ne lui demande pas de disputer 10 matchs par mois pour l'intégrer dans le groupe, on peut estimer que ce qu'il fait là actuellement, c'est-à-dire rejouer dans un groupe de manière régulière, intégrer à nouveau l'effectif, être sur la feuille de match et de temps en temps disputer des bouts de match.
S'il ne se blesse pas, il y sera.
Non, mais faire ça l'année prochaine, ça ne paraît pas insurmontable pour lui. Quoi.
Puis ça fait sourire, mais à partir du moment où il ne joue plus beaucoup depuis 2 ans, au moins il a de la fraîcheur. Quoi.
Bon, Florian Gazan, ce n'est pas un problème pour les trentenaires. Alors je parle
d'autres
joueurs.
Je pense même qu'il sera au Qatar, moi, Giroud.
Moi, je prépare 2024.
Bah, il va enchaîner. Euro 2021, Qatar 2022.
Après, c'est plus qu'un an derrière. Hein, ouais.
Bah oui, donc de toute façon, du coup, il sera lancé.
Une liste, c'est une concurrence. Donc, je veux dire, soit un joueur émerge d'ici un an de manière si spectaculaire.
Avec son profil.
Qu'il soit intégré en équipe de France, qu'on voit immédiatement que ça fonctionne à merveille. Et là, c'est la compétition, c'est le haut niveau, les lignes peuvent bouger. Ça, en cela, oui, un an de plus.
Surtout
mais,
ça commencera
mais,
quand
c'est valable pour Olivier Giroud, comme c'est valable pour tous les joueurs.
Alors justement, j'ai une liste, elle n'est pas longue, hein, mais d'autres trentenaires. Alors le poste est différent. Et évidemment, vous allez me rétorquer que quand on est gardien de but, c'est pas pareil que lorsqu'on est joueur de champ.
C'est ce qu'on allait vous dire.
Ouais. Néanmoins, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Blaise Matuidi.
Blaise Matuidi, ça va être compliqué, non ?
Bah, c'est pareil, ah, c'est toujours.
Moi, ça fait 10 ans que j'entends dire Blaise Matuidi cette année, c'est fini, il va perdre.
Mais ouais, mais à son fois, poste dans le milieu de terrain,
renforcé.
Il est titulaire à un poste qui est pas le sien, c'est extraordinaire.
Je pense que lui, il va devoir vraiment être au top et dans son équipe pour pouvoir y aller.
Moi, parce que lui, ça risque d'être juste. Il faut quand même toujours aussi garder la logique de groupe de Didier Deschamps, cette fameuse logique qui fait qu'un joueur comme ça, qui a un cadre historique de l'équipe et du groupe. Pour l'instant, il a son.
Oui, mais il va pas les garder quand ils ont tous 40 ans. À un moment, il va mettre des autres. Non,
mais tu as vu le match de Blaise Matuidi. Et puis, comme disait Philippe, pour mettre qui à la place pour l'instant.
Enfin, alors, justement, moi j'ai une liste. Bah, voilà. Les ex-futurs espoirs, les Bleus, Pogba, Dembélé, Thauvin, Tolisso, Ndombélé.
Ça, c'est la chance de leur vie. Pogba, c'est une grande énigme.
Est-ce que c'est pas la chance de leur vie de voir, de leur vie peut-être pas, mais de voir cet euro repoussé d'un an, alors que là, visiblement, les portes étaient quasiment fermées pour un certain nombre d'entre eux.
Pogba est à la ramasse.
Oui. Stéphane Pauwels.
Pogba est à la ramasse depuis un long moment. Il revenait de blessure maintenant. C'est quand même un joueur de qualité.
Donc c'est une aubaine.
Ah oui, pour lui, c'est une aubaine. Enfin, je pense.
Si on peut parler comme cela.
Mais Deschamps l'aime bien. C'est un joueur quand même précieux.
Pour ceux, effectivement, que vous avez cités qui sortent de très longs mois de blessures, comme Florian Thauvin ou comme Ousmane Dembélé.
Enfin, Thauvin, c'est 3 minutes en équipe de France. Enfin, je taquine, quoi, mais c'est pas des joueurs clés, quoi.
C'est pas,
ouais,
c'est
mais
pas
il joue très très bien au Uno, et c'est important pour la vie du groupe. Non, mais c'est un joueur important. Non, mais c'est aussi une bonne nouvelle, peut-être
les
pour.
Mecs, vous êtes forts, hein.
C'est une bonne nouvelle, peut-être pour un Camavinga, qui va avoir un an de plus pour peut-être intégrer les Bleus. Ouais. Peut-être une bonne nouvelle pour Adrien Rabiot, le serpent de mer, mais bon. Ben non, mais oui.
Non, mais après, là, on
peut permettre de revenir.
Comme quoi, le coronavirus peut faire des dégâts.
Mais ça va ouvrir le jeu.
Dans la liste Camavinga, War, Ikoné, qui peuvent, alors là, pour le coup,
on parle un petit peu dans le vide parce que. Quelle sera la réalité du terrain?
Faut parler dans le vide jusqu'à 20h.
Hein. Ouais. Sur ce sujet-là particulièrement.
Pas dans le vide pour quelques semaines.
Question, soyons clairs, depuis le début, nous avons été brillants et très intéressants. Mais sur ce point-là en particulier, c'est difficile de se projeter parce que dans 12 mois, qui nous dit que ces joueurs-là, on ne leur souhaite pas évidemment, ne seront pas blessés en cours de forme, etc.
Vous auriez dû faire 2 colonnes dans votre liste.
La question est, bien sûr, avec de la mesure, compte tenu des circonstances. Est-ce que c'est une. Est-ce que cela fait les affaires de l'équipe de France sur le plan sportif? Voilà. Placez-vous.
Moi, je pense pas. Je pense que les Bleus étaient prêts pour aller à la compétition et Didier Deschamps a toujours colmaté les brèches. Je veux dire, quand il a eu des joueurs. Vous savez, rappelez-vous quand même que vous avez joué avec 2 latéraux qui n'étaient pas des titulaires à la dernière grande compétition, que ça soit Pavard ou bien
Hernandez,
c'était pas prévu. Donc, je pense que Deschamps a montré qu'il savait quand même, à un moment, comme je dis, colmater les brèches.
Alors,
pardon.
Quand on parle d'Olivier Giroud, par exemple, on a cité Olivier Giroud et Blaise Matuidi, mais finalement, ce sont quasiment les 2 seuls joueurs qui peuvent être entre guillemets atteints par la limite d'âge.
Oui,
parce
que
finalement, qu'est-ce qu'on a dit quand l'équipe de France a été sacrée championne du monde, c'est que c'est une génération de joueurs de 23, 24 ans qui pouvaient, s'ils continuaient à être à ce niveau-là, voire à s'améliorer, peut-être écrire un petit peu l'histoire de ce sport à très haut niveau. Parce que c'est pas l'équipe de France qui est la plus impactée par le fait de reporter d'un an par rapport à des sélections qui peuvent être, entre guillemets, plus vieillissantes.
Justement, par rapport à la Belgique, exemple d'Eden Hazard que tu disais.
Nous, c'est clair que, de toute façon, là, je vais être vraiment très mesuré. Tout le monde voit la Belgique très, très belle. On a une défense quand même très compliquée. Compagnie joue plus. Est parti à Anderlecht. Denayer, qui est notre meilleur défenseur central, qui est quand même non plus pas un terrible, un bon joueur, mais pas un génial. Donc on est quand même déjà footballistiquement, défensivement, un petit peu limité. Maintenant, c'est vrai qu'Eden Hazard, contrairement aux idées reçues et contrairement aux mauvaises paroles, pour moi, c'est la clé de cette équipe nationale. On parle de Kevin De Bruyne, mais Hazard a souvent été décisif. Et c'est vrai que moi, je ne le voyais pas être à 100% pour 7 euros. Il était.
Mais t'avais Lukaku, ton ami.
Oui, Lukaku, il ne marque que contre les petites équipes, jamais contre les grands. Alors, je pense que c'est une aubaine. Je pense que nous, en tout cas, on est quand même plus pauvres sur notre banc que l'équipe de France. Quand je vois l'équipe de France, le nombre de joueurs qu'ils ont, même en équipe espoir, à chaque poste, même l'anglais qui jouait pas au Barça, qui est quand même. Moi, je veux bien le naturaliser belge, vous comprenez? On n'a pas ça. Donc, pour la Belgique, c'est une aubaine, oui.
On rappelle évidemment, Florian, que les circonstances sont graves, mais voilà, on se pose la question. Les sélectionneurs, évidemment, doivent anticiper. La vie doit continuer à un moment donné. Et la préparation de cette équipe de France, elle passe effectivement, d'ailleurs, par des matchs amicaux qui sont maintenus, on ne le sait pas. France-Finlande et France-Ukraine, on ne sait pas du tout quand est-ce que ces matchs.
Pour l'instant, on est dans une logique de report.
La Nations League après.
Noël Le Graët, président de la Fédération française de foot et qui est garant justement de la bonne marche de l'équipe de France et des Bleus, lui souhaite que ces 2 rencontres s'intègrent dans un calendrier modifié qui irait jusqu'à la mi-juillet, la fin juillet, voire déborder sur le mois
de juillet.
Un calendrier qui va jusque fin août.
Alors commence quand le championnat oui. Parce que moi à ce rythme-là, je skie au mois de
Début octobre. Non mais alors dans cette optique-là, ce qu'on pourrait faire, parce qu'on aurait plus de visibilité, c'est réduire la saison suivante, la saison 2020-2021.
C'est-à-dire
la, terminer cette saison-là fin août, la reprendre début octobre, la saison d'après, mais la raccourcir.
Mais comment?
Bah peut-être en les jouant sur un seul match, je sais pas. On peut imaginer plein de
avec
choses. Supprimer la Coupe de France.
Je pense.
On peut imaginer des choses.
Je pense qu'ils vont continuer.
Et jouer sur un seul match quoi?
Bah sur un seul match l'ensemble de la saison au lieu de faire aller-retour.
Le championnat
ça, ouais. ça va être sympa les classicos.
Je veux tout imaginer.
Mais sur terrain neutre alors.
Je sais pas, mais on,
il va pas bien,
solutions.
David. Hein.
Mais non, fatigué, David. Alors, la Coupe de la Ligue sera plus là.
La température.
La Coupe de la Ligue sera plus là.
C'est par exemple, Jean-Michel Aulas, je propose un truc.
Ma solution des terrains, effectivement, n'est pas la meilleure, mais il y en a d'autres. La Ligue des Champions, en revanche, on peut revoir la formule.
Ah.
Effectivement, jouer les huitièmes de finale.
On y vient.
Jouer à partir des huitièmes de finale sur un seul match, là, ça paraît plus possible. Donc, on gagne des dates. Supprimer la Coupe de la Ligue, ça sera déjà fait. Et pourquoi pas supprimer la Coupe de France? On gagnera des dates aussi.
Par contre, sur Florent parlait de la National League, qui est enfin moi cette compétition je ne l'aime pas parce que ça a été fait pour remplacer des matchs amicaux pour essayer de faire une petite compétition mais
sympa.
Peut-être que
elle
c'est
pas mal cette compétition oui, c'est également retransmise sur M6 hein.
elle peut être pas donc, mal mais peut-être qu'ils vont utiliser elle est fantastique si elle est sur
c'est
M6 je pense qu'ils vont peut-être et ce serait intelligent d'utiliser ces dates là et repenser leur truc pour des matchs amicaux pour les équipes nationales pour préparer l'Euro puisqu'il manquera de dates pour faire des matchs amicaux.
Tu as besoin de cette compétition parce qu'elle va délivrer maintenant des
elle délivre pour la Coupe du Monde.
Un ticket, je pense.
Oui, mais tu peux pas l'enlever.
Après, quel que soit le format, que ce soit un match amical, que ce soit la Nations League, il y a des dates internationales et les fédérations.
Mais tu pourras pas tout faire si tu dois
aller champion depuis des années parce qu'il y a quand même de plus en plus la mainmise des clubs sur le système.
Philippe, il y a un moment, il faut être logique. On parlait de championnat fin août, on extrapole. Ça se termine fin juillet. Fin juillet, un championnat. Normalement, les équipes reprennent les entraînements mi-juin. Entre le 15 et le 25 juin, les équipes reprennent, ou parfois même début juin, pour le stage de préparation. Tu termines fin juillet, tu vas laisser tes mecs au repos 2 semaines. Il ne faut pas rêver, c'est des pros, les clubs ne vont pas leur donner un mois de vacances.
Mbappé doit aller aux JO, je te rappelle.
Pardon ?
Mbappé doit aller aux JO.
Oui, mais bon. Donc ils vont reprendre entraînement fin août et championnat.
Vous savez quand même que pour les Jeux Olympiques, ça va être extrêmement compliqué.
Ça va être très compliqué.
La Fédération américaine de natation, qui est très puissante, demande au CIO d'ajourner les Jeux Olympiques. Cet après-midi, la Fédération américaine d'athlétisme également
demande,
dans une moindre mesure, mais ça existe quand on a de jolis champions également, la Fédération française de natation.
Je vais pouvoir
vous dire que les Jeux Olympiques, ce sera terminé.
Ce sera terminé aussi. Fin juillet, vous reprenez. Donc c'est fini. Vous reprenez. Le championnat, je ne vais pas être loin, septembre, ce n'est pas utopique. Donc, vous terminez celui-ci et fin septembre, vous recommencez le nouveau championnat. Il va falloir trouver des dates pour ton équipe nationale.
Déjà, on peut raccourcir la trêve aussi. Hein.
Ouais,
on peut peut-être raccourcir la trêve.
Mais voilà quoi. Donc, le
fameux boxing
donc,
day à la française.
Si tu reprends fin septembre et que tu reprends un deuxième championnat, en vue de l'Euro dans un an après, tu vas trouver où tes dates pour l'équipe nationale?
Bon, en tout cas, on a fourni beaucoup d'idées à la Fédération française de football.
Et pas que
de
bonnes.
Messieurs, à 14 minutes maintenant de la fin de ce On refait le match, une courte respiration et on parlera de l'actualité, non pas du jour, mais de l'actualité de ces dernières 24 ou 72 heures. La crise à Angers, tentative de putsch de Claude Puel, mais également le nouveau président du Stade Rennais. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Du Strac.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match et on vous voit sur l'application Twitter @RTLFoot. On vous voit avec en studio David Aiello, Yahoo Sport, Stéphane Powels, journaliste polyvalent, Florian Gazan, les grosses têtes bien évidemment, mais également le service des sports de RTL et très souvent le samedi soir.
Avec plaisir.
Dans On fait le match et Philippe Sansfourche, le chef de la rubrique Foot de RTL. Alors on a parlé de beaucoup de choses qui concernaient évidemment le football, mais les coulisses du football. On va parler désormais de la vie de nos clubs. Et on va commencer par parler, si vous le voulez bien, de la crise à Angers. Mise en examen il y a plusieurs jours de cela de Saïd Chaban, le président du SCO, pour agression sexuelle aggravée. Quelques jours après, il nomme un nouveau président, Fabrice Favetto Bon. Et depuis hier, on apprend que celui qui était l'un des piliers de ce club, Olivier Piqueux, ancien joueur, ancien avant-centre, manager reconnu, avec beaucoup de talent, Olivier Piqueux, licencié pour faute grave. Alors ça, la faute grave, va falloir qu'on en sache plus. Mais pour l'instant, c'est silence radio. Qui veut prendre la parole ?
On peut peut-être juste dire que c'est assez surprenant parce qu'on avait, l'image d'un club justement qui avait l'impression d'être stable, qui travaillait sur la durée et qui, grâce à cette stabilité, justement, avait réussi à obtenir des résultats quand même pour le moins honorables compte tenu d'un budget très modeste. Donc c'est vrai qu'on tombe un petit peu dénu de découvrir un petit peu l'arrière-cuisine et ce qui se passe.
Ce qui est compliqué, David, c'est que
aujourd'hui
existe en France la présomption d'innocence et ce président a été pris pour des actes. Enfin, en tout cas, présumé, c'est ce que je lui ai dit. Donc voilà. Et mais concernant des gens du personnel du club. Donc déjà là, la situation elle est déjà très compliquée. Il reste à son poste et il nomine pas tout de suite un successeur. Il y a une période, je pense, de 2-3 semaines où il y a et on le voit assis dans la tribune. Donc il reste en place. Il va dans la tribune le jour des matchs. Donc tout ça, je trouvais ça assez nauséabond. Après, ce monsieur a peut-être rien fait et je lui souhaite qu'il soit acquitté.
Présomption d'innocence.
Nous sommes comme... ah, je peux vous en parler. Donc je lui
Stéphane,
souhaite.
Mais ce qui est très soit il y a la présomption d'innocence et dans ce cas-là,
c'est pas, ça David, ce que j'ai pas, ce que j'ai pas compris,
c'est pas ça qui m'intéresse, les amis.
Non, c'est pas ça.
C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que on licencie Olivier Piqueux.
Mais c'est ça que je voulais terminer. C'est que lui est un type extrêmement compétent qui est. Tout le monde est unanime et tout d'un coup maintenant on le dégage pour une faute grave, mais ça sent la catastrophe pour le club.
Est-ce que la faute grave c'est de vouloir profiter de l'absence de Saïd Chaban pour s'approprier le club?
Prendre le
c'est
pouvoir.
Ce que j'ai pu lire ou entendre ici et là.
Ça y est, un club de foot, c'est un peu c'est Gomorra, hein. C'est-à-dire qu'il y a, les chefs, il y a les sous-chefs, et puis quand le chef est en difficulté, il a la peur que...
C'est partout
qu'est-ce
pareil.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
C'est comme l'émeute de loups, quand le vieux loup fatigue, les jeunes loups...
Saïd Chaban,
c'est partout pareil.
Voilà, il est le garant de ce qui va se passer sur le plan financier, parce que c'est lui qui a apporté l'ensemble des fonds, c'est lui qui a les réseaux locaux des grands chefs d'entreprise, des investisseurs, mais... Il peut se produire que, en son absence, il y a un retournement de situation. Olivier Piqueux, il a pris beaucoup de place dans ce club ces dernières années parce que c'est vrai qu'on louait justement le schéma de d'Angers comme quelque chose de très vertueux et qu'on aimerait voir dans tous les clubs, c'est-à-dire un président fort, un directeur sportif qui a une vraie puissance et qui n'est pas le sous-fifre du président, et aussi ce dont on parle moins, Stéphane Moulin, l'entraîneur qui travaille.
Chaban,
main dans la main,
c'est un triangle qui a perdu de côté.
Mais enfin, quand vous avez travaillé dans un club, vous savez comme moi que chacun doit rester à sa place. Et M. Piqueux, il a certainement des qualités sur un organigramme sportif, mais entre être responsable sportif et faire tourner un club, tu le parlais tout à l'heure, d'aller chercher des fonds, d'aller chercher de l'argent et de dynamiser toute une région, parce que ce club aussi représente une région économiquement parlant comme sponsoring. Est-ce que M. Piqueux a ces capacités-là?
C'est ça la faute grave.
Pardon?
C'est ça la faute grave?
Ah ben non, moi je pense que la faute grave, c'est que je pense que peut-être que Monsieur Piqueux, il devrait juste rester à sa place.
Il n'est pas seul, mais s'il est,
il devrait rester. La faute grave, c'est que je pense qu'il veut prendre trop de place dans ce club et que certains pensent qu'il n'est peut-être pas capable de.
Oui, mais ça c'est pas Florian une. Ça juridiquement parlant, c'est pas une faute grave.
Nous sommes d'accord.
Il va falloir voir ce qu'ils ont mis en dessous de ça. Non, mais au-delà de ça, pour revenir à ce club, on a l'impression qu'il est quand même en danger très très immédiat. Le club d'Angers, c'est vrai que c'est quand même un club qui a réussi l'exploit de se maintenir en Ligue 1, alors que sur le papier, quand ils sont montés, tout le monde pensait qu'ils referaient l'ascenseur. Et puis ils ont installé ce triumvirat avec le président Chaban, Olivier Piqueux, qui est quand même là depuis 14 ans à Angers. Donc c'est quand même un pied du club. Il n'est pas arrivé la semaine dernière. Et Stéphane Moulin. Et là, on se dit que si Piqueux part, et ça va être le cas, bah, quid du recrutement? Et on sait très bien que Angers est un club aussi qui a subsisté par la finesse de son recrutement. Les joueurs qu'ils ont trouvés pas chers, qu'ils ont su revendre, hein, les Toko Ekambi, Jeffrey Adelaide. Et donc si on enlève ces piliers-là, on peut se demander quand même que si l'avenir du club d'Angers n'est pas fortement menacé.
Alors, je n'arrivais pas à trouver la question en préparant cette émission concernant Angers, mais on peut poser la question de la façon suivante. Est-ce que Angers n'est pas en train de se saborder, finalement?
Angers en danger.
Angers.
Voilà. C'est très bon, ça. Ils sont en train de se tirer une balle dans le cul.
On voit qu'il y a quelque chose derrière.
Mais c'est un grosse tête. Ça, Christian Olivier, c'est des grosses têtes.
C'est un moment où il faut pouvoir savoir. Et nous, on ne peut pas lutter, là.
On ne peut rien faire contre ça. Les amis, le Forez, la AS Saint-Etienne, le putsch de Claude Puel. Alors là, moi, Claude Puel, je l'admire pour ses compétences techniques, ancien joueur, compétences techniques admirables. Mais si ce qu'on nous apporte est vrai, malheureusement, en passant des coups de fil à Saint-Etienne, on arrive à avoir
confirmation.
Peu d'informations, justement. Peu d'informations. C'est-à-dire que Claude Puel veut rester manager-entraîneur de la AS Saint-Etienne à une condition, c'est que Roland Romeyer quitte le club. Bon, on rappelle quand même que Roland Romeyer est le propriétaire de la AS Saint-Etienne.
Oui, mais vous savez comme moi... Franchement, j'ai travaillé avec Claude. Je pense que vous le savez. C'est quelqu'un que j'apprécie pour les compétences que vous dites. Le problème, c'est que Claude Puel, il est tellement... braqué, c'est quelqu'un qui se braque assez. Moi, j'ai travaillé avec lui, il faut aller dans son sens. Et là, vous savez, comme moi, c'est pas nouveau, il a pas fallu attendre Claude Puel que c'est le bordel entre les deux présidents et qu'ils prennent chaque fois des décisions différentes. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée au club, qui s'appelle Xavier Tuilot. Xavier Tuilot était l'ancien directeur général de Lille et qui collaborait avec Claude Puel. Et
ça s'était mal terminé à Lille également.
Alors, lui, il y avait Paquet aussi. Donc, moi, j'ai travaillé avec les trois, donc je les connais. Bon, Tuilot, c'est un type compétent. Sauf que c'est un mec rigide. Rigide à la Puel. Donc à un moment les mecs se sont donc ils se sont mis autour d'une table et ils se sont rendus compte, ce qui est pas nouveau, c'est que monsieur Romeyer, si je peux me permettre, est quand même de temps en temps farfelu. L'erreur que fait Claude maintenant, je pense, j'ai pas parlé avec lui, c'est de vouloir devenir le calife à la place du calife. Il veut nettoyer les clubs alors que c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande sportivement de sauver les clubs.
Mais peut-être qu'il estime que pour pouvoir bien travailler sportivement,
il a certainement raison.
Mais c'est peut-être qu'il estime que pour pouvoir bien travailler sportivement, et on l'a dit, ça fait quand même 10 ans que l'ensemble des observateurs du football français essaient de la situation de ce duo à la tête du club qui quand même tire pas forcément toujours dans le même sens. Donc que quelqu'un comme Claude Puel, qui comme tu l'as dit est quelqu'un de très carré, qui aime bien les choses bien organisées, arrive dans ce club et se dise mais c'est pas possible de pouvoir travailler dans la durée sereinement avec un duo comme ça.
Qui a engagé Claude est-ce que monsieur Romeyer,
ça me paraît légitime et ça me paraît cohérent.
Philippe, qui a voulu Claude Puel. Est-ce que c'est monsieur Romeyer ou c'est monsieur Cayazzo?
C'est Romeyer.
C'est ça qui est très particulier. C'est que les mecs sont en train de se bouffer alors que l'autre voulait l'autre. Donc il doit avoir des dessous de table.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Roland Romeyer a accepté aussi qu'il ait des prérogatives élargies par rapport à ses prédécesseurs, hein, qu'il soit au conseil d'administration, qu'il soit donc, et une fois que Claude Puel prend justement l'ensemble de ses fonctions, Roland Romeyer semble découvrir que finalement il va avoir plus de poids dans le club, parce que Roland Romeyer, quand vous discutez justement avec les gens qui sont au sein du club, c'est, alors avec toutes ses qualités et tous ses défauts aussi, c'est quelqu'un qui reste jusqu'à minuit dans les bureaux et qui va voir si ah oui, il y a eu une commande pour les ampoules, mais on a commandé combien, 20, mais il y en a 4 qui sont mortes, alors moi je refais les commandes d'ampoules et on va en recommander
que
12
que
mais si
peu.
C'est ça, c'est ça, le nombre de ballons à l'entraînement il les compte.
Bon, alors là, c'est une information.
Hein. Eh bien, si, bah, je peux vous le dire.
Attention, parce que Philippe s'en fout, j'ai des informations.
Et il y en a combien, alors? Il y en a combien de ballons?
Combien de ballons?
Ce que je trouve un petit peu indécent dans tout ça, c'est que, et c'est ce que je reproche un petit peu à Claude Puel, c'est que Claude Puel, il est en train de nous faire depuis quelques semaines la saison prochaine. Mais il y a quand même une saison à terminer.
Et que... Alors, ça, c'est vrai.
Mais non, mais c'est bien gentil de me dire, moi, l'année prochaine, je reste pas si machin. Mais non, déjà, essayez de sauver le club, parce que là, ils sont quand même pas très très bien, Saint-Etienne. Donc là, on est en train de se chicorer sur un avis. Est-ce que Claude Puel, si Saint-Etienne descend Ligue 2, il restera.
Alors, non mais là, t'as pas tort, sauf que la qualité première de Claude Puel, c'est un bâtisseur. Il l'a fait à Lille, il l'a fait partout où il est passé. Et lui, il veut pas rester dans un club s'il sent déjà qu'il va être en difficulté l'année prochaine. C'est peut-être indécent vu la période compliquée.
C'est parce que Roland Romeyer compte les ballons, ça met Claude Puel en difficulté.
Je pense pas que ça soit ça.
Les ballons, je peux comprendre. Par contre, les ampoules.
Oui, les ampoules, c'est un vrai problème.
Non, vous savez, le vrai problème, c'est le recrutement.
Alors, on a quelques secondes. Le nouveau président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Hollweck. Ça vous surprend, ancien directeur administratif
dans l'histoire, c'est déjà arrivé. C'est ce qui s'est passé avec le départ du président en place. Donc c'est vrai que là, ça a été assez surprenant de.
Oui, mais ça, vous en avez déjà débattu avec Denis Balbir.
Mais du coup, je veux dire, là, pour moi, l'effet de surprise sur Rennes, il est passé. Après, l'homme qui le remplace, on le connaît peu. On va juger sur pièce. Quoi.
On ne sait pas qui c'est.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sera le directeur sportif.
Olivier Piqueux.
C'est ça.
Olivier Piqueux, on parle de Florian Maurice. Non, mais ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui sera en relation très proche.
Rennes, ça me semble quand même un club compliqué. On a eu des Jean-Luc Buzyn qui était reconnu comme un excellent recruteur. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Pierre Drey aussi, ça a été compliqué. T'as l'impression quand même que ce club, même si tu mets des bonnes personnes, que ça fonctionne pas. Donc je pense qu'ici ils ont intérêt plutôt à pas se tromper. Et le temps était, Monsieur Létang, pardon. Et je pense que
ce qui est certain, c'est que ce qui s'est produit à Rennes, c'est quasiment unique dans l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'une guerre intestine entre le président et l'entraîneur a tourné à la faveur de l'entraîneur. L'homme central aujourd'hui, c'est Julien Stéphan. Il faut pas oublier qu'il était responsable du centre de formation avant d'être là où il est, et que ça va s'articuler autour de lui. Et si aujourd'hui il y a la volonté, par exemple, de faire venir un Florian Maurice, c'est parce que Julien Stéphan a certainement très envie de travailler avec son garçon.
La pluie et l'étang.
Bravo.
T'es pas encore en
Gossette.
On t'appellera pour la valise.
Pascal Pro m'en voudrait également de ne pas rappeler cette semaine la disparition de Patrick Lelay, le patron de TF1 au caractère bien trempé, parfois brutal, qui savait ce qu'il voulait, qui n'aimait pas forcément le sport, mais qui savait où étaient ses intérêts. Et dans les années 90, à l'époque de l'Olympique de Marseille, Patrick Lelay, effectivement, était très important dans le monde du foot.
Des champions sur TF1 à l'époque.
Et il a été président également du Stade Rennais sur deux saisons de mémoire, deux fois sixième et une demi-finale de Coupe de France.
Et mal faire dans un gant de velours.
Absolument. Merci messieurs, merci Stéphane Powels, merci David Aiello, merci Florian Gazan, merci Philippe Sanfourche.
Merci Christian, merci à tous.
Merci à vous tous qui nous écoutez derrière votre poste, évidemment. Restez chez vous, vraiment, on vous souhaite du courage. Restez avec nous à l'écoute des programmes de RTL. On vous retrouvera très prochainement pour l'offre sportive de RTL. Et dès demain d'ailleurs, 19h30, 20h, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Derrière les informations de 20h, Éric Jean-Jean. Et bonus track. Ciao, ciao.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous. Je suis